Dans le Tempo, épisode 72. C'est parti, Daz ?
C'est parti, Salman.
Bienvenue dans DLT, le podcast des passionnés de musique.
Oui, oui.
Toujours un plaisir. Hein. Ben, franchement, ça fait plaisir à chaque fois de se retrouver.
Oui, oui. Surtout que là, pour une fois, pour de vrai, on s'est pas vu depuis la semaine dernière.
C'est vrai. Non, parfois, il y a 15 jours entre deux enregistrements, mais là, on est sur un bon rythme.
On est sur un rythme sympathique.
Ouais, c'est
sympathique.
Pas mal, c'est
cool. Moi, j'aime bien me retrouver ici pour parler de sujets divers et variés, avec toujours des invités passionnants et érudits.
Oui.
Et alors, cette semaine, Salman, qui recevons-nous ?
Écoute, dans le podcast des passionnés de musique que l'on retrouve un mercredi sur deux, nous recevons cette fois Vladimir Pandolfo et Tarafa Saloul.
Salut.
Ça va les gars ?
Bienvenue.
Super, je vais tenter d'être passionnant et érudit.
Oui.
Ce sera très simple, ça, c'est naturel.
J'ai pas trop de doutes parce que Tarafa et Vladimir Daz, ils travaillent tous les deux dans la musique, de jeux vidéo en particulier.
Vous m'en direz tant.
Et ce qu'on va essayer de faire, c'est... On a déjà parlé un peu de jeux vidéo dans DLT, notamment avec The Algorithm, avec Mr. MV, mais c'était plus, tu sais, les aspects un peu composition, culture autour de la musique de jeux vidéo. Et là, on va essayer de découvrir les coulisses qui mêlent à la fois industrie musicale et jeux vidéo, parce qu'il y a des liens et qui d'ailleurs s'accentuent.
L'argent est le lien principal.
Absolument, on peut déjà le dire.
Oui.
Tout est une question de moulard, en effet. Mais non, mais il y a aussi des professionnels derrière tout ça.
Oui,
et on les a avec
bien.
Nous.
Ça fait très très plaisir.
Absolument. Bah, d'ailleurs, je vous présente très rapidement. Vladimir, toi tu travailles pour Ubisoft.
Qui t'a fait
La main sur le cœur quand on
La main sur le cœur, pardon, oui.
Le nom d'une licorne française, bah, bien sûr Ubisoft. Qui ne connaît pas Ubisoft?
Bah, certainement des gens qui nous écoutent. Donc.
Qui ne connaît pas? Who doesn't know Yves Guillemot?
Ah,
Guillemot. The French CEO with an accent incredible.
Bah, en tout cas, Ubisoft, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les rares qui ne connaissent pas Daz, éditeur, développeur, distributeur de jeux vidéo, l'un des plus grands du monde, effectivement français. Mm-hmm. Bah, en gros, c'est la boîte derrière, tu vois, les Assassin's Creed, Rayman, les Lapins Crétins, les licences.
Ghost Recon, Splinter Cell,
tout ce qui est Tom Clancy's et tout.
Just Dance,
en jeu musical. Toute grosse réussite d'ailleurs pour Ubisoft.
Ah,
Just
Dance. Bien sûr.
Et puis, ce que tu fais chez eux, c'est t'occuper du business music, justement.
Exactement.
Donc j'imagine, on va en parler en détail évidemment, mais que ton métier consiste principalement à la fois à discuter avec les labels, les artistes, nouer des partenariats aussi.
Il y a cette activité-là, effectivement, qui est super importante, puisqu'effectivement, moi, je viens de l'industrie de la musique, et j'ai souvent l'habitude de dire que je suis un peu une sorte d'interprète entre les codes du jeu vidéo et les codes de la musique. Ce sont des industries qui sont cousines, ce sont des industries qui ont des points communs, mais ce sont des industries qui ont des histoires différentes, qui ont de plus en plus tendance à se mêler. Et mon travail, justement, c'est que tous ces liens avec l'industrie du disque, que ce soit en activité partenariat, en activité licensing, on en parlait, ou en activité de label, puisqu'on est aussi un label de musique, on produit et on édite notre propre musique originale, et ça nous a mené parfois très loin. Moi, je m'occupe un petit peu, justement, de cadrer tout ça pour que les deux business puissent se coordonner. C'est passionnant.
Effectivement, c'est passionnant. Et tu parles du fait que tu viens de l'industrie musicale, puisque tu as passé plus de 10 ans chez Warner, si je ne dis pas de bêtises.
J'ai démarré tout petit. J'ai démarré chez Columbia, un label de Sony. D'abord, j'étais au marketing international en tant que chef de projet. Donc, je m'occupais de la stratégie de certains artistes pour le marché français. Mmh. Donc, à l'époque, c'était la grande époque, Destiny's Child, Beyoncé, John Legend.
Je les ai tous croisés.
Oh, Hit Machine. Et
Columbia, hein, qui est très connu pour dropper tous ses artistes. Hein. Nous, dans Six and Daz, le podcast que je faisais là sur le hip-hop, souvent les artistes Columbia, bon, après le premier album, ils se faisaient drop. Hein.
On arrivait au point Columbia.
Non, je suis pas du tout d'accord parce que justement, il y a, bon, on va pas faire un podcast sur l'historique de Columbia, mais il y a des artistes, bon, Bob Dylan, Barbara Streisand, Te Passe le Bonjour, ils ont un contrat depuis les années 60.
Non, mais moi je parlais des rappeurs, Columbia, qu'est-ce qui s'était fait dropper? On avait rigolé.
Non, mais arrêtons avec ces fakes, arrêtons avec ces fausses histoires.
DMX.
DMX, il y a eu pas mal d'albums. Allez, on dévie. Mais le premier album de Destiny's Child n'a pas été un énorme succès en dehors des US. Et ils ont tenu bon. Et derrière, il y a eu quand même The Writing is on the Wall. Donc il y a eu quand même certains artistes.
T'as entendu, on dit pas de mal de Columbia.
Non,
moi j'adore. C'est le point Columbia. On avait toujours le point Columbia dans le podcast.
Mais en tout cas, tu passes chez Warner après.
Après, oui. oui, j'étais voilà, directeur artistique chez Warner, donc ça c'est le contraire, j'étais plus sur des artistes locaux, qui sont toujours. Hein. Donc j'ai été directeur artistique, donc la partie plus créative, plus découverte de nouveaux talents. Donc là j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup d'artistes, Christophe Maé, M. Pokora, Scheim, Tal, Offenbach. J'en passe et juste après ça j'ai rejoint, ça c'était autre chose, France Télévisions où je m'occupais de l'Eurovision. J'étais directeur cool.
À l'époque, la programmation, casting.
Ouais, à l'époque on faisait des sélections nationales, c'est-à-dire qu'il y avait des candidats qui se présentaient pour l'émission, une émission qui s'appelait Eurovision France, c'est vous qui décidez. Et j'étais en charge du casting et plus que ça, de la programmation de l'émission, donc tout c'était lié aux activités musicales.
Tu peux nous donner un nom d'artiste qui du coup a représenté la France dans
ce L'année Pravi, où j'étais, c'était Barbara Pravi. Donc
c'était pas longtemps, ça.
Et plutôt Cali en plus comme candidate.
Surtout arrivée deuxième, big up Barbara si tu nous entends. Mmh. Donc voilà, et ça devait pas durer longtemps. Et puis en parallèle, on avait gagné l'Eurovision Junior, donc l'Eurovision des petits. Donc je me suis retrouvé dans l'organisation d'un Eurovision. Et là, Ubisoft a surgi.
Et on en parlera évidemment.
Évidemment.
Je rajoute juste aussi d'ailleurs que tu transmets aussi une partie de ton savoir, parce que tu interviens à HEC, tu intervenais auprès de Sciences Po aussi à une
époque. Toujours,
toujours. Ah, toujours Sciences
Po
aussi.
J'y suis toujours. Très bien. 17e année, my God.
Incroyable. Bon, Vladimir, on voit que tu es un professionnel aguerri. Il faut qu'on présente Tarafa aussi, Tarafa Saloul, autre professionnel aguerri.
Oui, bien sûr.
Érudit et passionnant.
Érudit et passionnant aussi. Et surtout, grande particularité, Vladimir ne peut pas en dire autant, c'est ta deuxième dans DLT.
Tout à fait.
Et
incroyable.
C'est mon principal fait d'arme.
Non, mais tu étais le premier invité de l'émission. Ouais. C'est vraiment le tout premier épisode.
Ouais.
Et donc, tu vois, ils sont pas beaucoup à être revenus dans DLT plusieurs fois.
C'est vrai.
Je suis honoré, du coup. Oui, c'est à double titre, d'avoir été le premier et de revenir.
Alors, après, le premier, c'était pas le même format. C'était
non, c'était à distance et tout. Mais tu sais quoi?
Il y a eu reboot.
Il y a eu reboot depuis. Non, mais c'est
ton DLC de DLT.
C'est un des épisodes qui a le mieux performé de l'histoire du podcast. Parce qu'on avait parlé un peu des manières, entre guillemets, de réussir dans la musique aujourd'hui. On avait fait un petit point un peu sur l'industrie de manière générale. Et ça avait plu à beaucoup de gens. Et il a vraiment bien marché cet épisode. Voilà.
Bah, espérons la même chose pour celui-ci.
Exactement.
Alors. Peut-être que c'est Tarafa le X-Factor.
Ouais, voilà. Vous allez m'inviter à toutes les émissions.
Tu seras là à chaque fois. Bon, c'était pas le cas à l'époque, mais aujourd'hui tu es vraiment spécialisé dans la musique de jeux vidéo. Entre autres, tu as d'autres activités, mais ça reste le cœur de ton métier d'aujourd'hui. Tu as monté notamment ton propre label qui s'appelle Kid Katana. Et avec cette boîte indépendante, en gros, vous travaillez main dans la main avec différents acteurs du jeu vidéo, des éditeurs principalement.
Ouais, c'est ça. On accompagne des studios et des éditeurs. Globalement indépendant, à la différence donc de Vladimir.
Tout de suite, ça va stigmatiser.
Non, mais c'est intéressant d'avoir ces deux regards d'ailleurs.
Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, je me reconnais dans pas mal de choses qu'il a pu décrire déjà. Avec Kid Katana, en gros, on accompagne des studios et des éditeurs sur un peu toutes leurs problématiques musique. Donc, la création, des aspects plus business, légaux, vraiment de l'artistique, de les aider à contacter des artistes musicaux. Qui ne sauraient pas comment approcher par eux-mêmes. Enfin voilà, un peu ce côté facilitateur, tu vois, que tu évoquais, et voilà, faire vraiment la connexion entre le monde de la musique et le monde du jeu vidéo.
Tu peux nous citer d'ailleurs quelques boîtes avec qui vous avez travaillé, sur quel BO, des choses comme ça?
Ouais, on a travaillé avec Dotemu pas mal, sur Street of Rage 4, sur TMNT, le jeu Tortue Ninja Shredder's Revenge.
Grosse licence.
Ouais, des plutôt grosses licences. On a vraiment bossé ensemble sur des guests musicaux. Le plus notable, c'était vraiment Mike Patton et Raekwon et Ghostface du Wu-Tang sur la BO de Tortue. Donc ça, c'était vraiment
on en reparlera en détail, mais en gros c'est vous qui êtes allé chercher des artistes pour les besoins de l'éditeur.
On est allé chercher les artistes et on a aussi ensuite accompagné la prod des morceaux, parce que on en reparlera, mais il s'agit pas seulement de ramener des artistes et de les coller sur un jeu. Il y a aussi derrière aussi une démarche créative, artistique et de production pour que ça pour que ce soit bien, pour que les morceaux soient bien et pour que ce soit que ça s'intègre bien dans l'expérience. Donc oui, beaucoup avec Dotemu, on est très proche, on apprécie beaucoup bosser avec eux, mais en fait on travaille avec avec beaucoup de studios et d'éditeurs. Récemment, on a bossé avec Quantic Dream, avec Dontnod. On a sorti la BO de Jusant.
C'est sympa, Jusant.
C'est super BO, enfin super jeu et super BO. Là, on bosse sur des projets avec Private Division. Enfin voilà, on est sur un scope assez large en réalité de collaboration et voilà.
À l'instar de Vladimir, toi aussi, c'est ce que je trouve intéressant dans vos profils, tu viens en fait de l'industrie musicale plus classique, ouais, entre guillemets, t'as travaillé pendant plus de 10 ans pour Idol, qui est un distributeur indépendant assez important.
Oui.
Et t'étais d'ailleurs à la tête, peut-être qu'on pourra en reparler rapidement, ouais, parce que c'est un des points communs avec ton métier d'aujourd'hui en fait, mm-hmm, à la tête du développement A&R. Alors on parlera d'A&R, mais en gros c'est aller chercher de nouveaux artistes.
Artistes et répertoires.
Des artistes, ouais, des répertoires, effectivement, des labels, etc. Et se dire, bon, comment on les attire, qui est intéressant aujourd'hui sur le marché, mm-hmm, entre guillemets, etc. Mm-hmm. J'imagine que ça te sert dans ton métier d'aujourd'hui.
Bah ça me sert, oui ça me sert beaucoup, en particulier parce que bah avec mon expérience chez Idol qui est une boîte française mais qui est très présente à l'international aussi, encore une fois sur la scène indépendante, ça m'a amené dans mon boulot à rencontrer énormément d'artistes et de labels et de producteurs de musique et d'avoir du coup un réseau à l'international qui est assez cool et que je peux activer dans mon activité. Donc oui, clairement, en plus d'avoir pu apprendre pas mal de choses sur le fonctionnement de l'industrie et des différents métiers de la musique en rencontrant tout ce beau monde, quoi.
Bordas, tu vois, je crois qu'on a réuni des pointures. J'ajoute juste aussi pour toi que tu as un autre label depuis plus longtemps d'ailleurs qui s'appelle Mutant Ninja, sur, oui, lequel il y a de la musique, pas de jeux vidéo cette fois. Et notamment le premier album de Nit, enfin l'EP pardon, de Nit qu'on a reçu, était chez Mutant Ninja.
Ouais, tout à fait.
Tu l'accompagnes d'ailleurs pour sa carrière.
Carrément, on bosse encore beaucoup ensemble. Ouais.
Label de référence.
Et
très connu, oui.
Oui. Et toi aussi, d'ailleurs, t'es artiste tout aussi, en solo, en groupe.
J'ai démarré en tant que rappeur. Hein, ouais.
Voilà, enfin. J'attendais le moment où on connecte avec la vraie musique.
Avec la vraie musique,
très bien.
Mais d'ailleurs, c'est profil commun, on l'a évoqué dans un des derniers épisodes avec Lola Frichet, c'est qu'on aimerait bien recevoir, tu sais, le boss de Panenka, qui lui aussi a été rappeur d'abord en 1995, Antoine, et qui ensuite est devenu, a monté son propre label.
Flavor Flav. Ouais. Non, pas Flavor Flav.
Non, Funky.
Flavor Flav, c'est pas le même.
C'est pas le même. Et on essaiera peut-être de l'inviter pour discuter.
Ouais, Funky Flav, ce serait très, très sympa, ouais.
Bon, on va essayer les gars de découvrir tous ensemble Vladimir Tarafadaz, l'industrie derrière la musique de jeux vidéo. Et première partie, on va juste un peu revenir justement comment on passe un peu de l'industrie musicale plus conventionnelle entre guillemets à celle spécialisée dans le jeu vidéo et quelles sont un peu les spécificités justement dans ce domaine-là. Ensuite, un peu plus globalement, on s'intéressera aux pratiques qui peuvent exister dans la musique de jeux vidéo. Et puis enfin, on terminera avec le fait que c'est quand même une nouvelle économie aussi pour le jeu vidéo, en tout cas que ces nouvelles pratiques, elles donnent aussi naissance, tu vois, à de nouvelles ressources pour financer la musique, tout simplement, les artistes, etc. J'imagine que du côté du jeu vidéo, ça peut être aussi intéressant. Enfin bref, il y a certainement plein de jonctions comme ça possibles et on va discuter de tout ça. Mais pour commencer, les amis, la musique de jeu vidéo, j'imagine que vous vous retrouvez pas quand même là-dedans par hasard. Est-ce que c'était une culture que vous aviez à l'origine? Est-ce que les gens qui bossent dans l'industrie musicale, ils ont toujours une petite oreille pour la musique de jeu vidéo? Parce que moi, je pense aussi au fait qu'il y a plein d'artistes, même conventionnels, qui s'inspirent aussi de l'esthétique jeu vidéo. Ça cohabite déjà un peu, même initialement, dans vos précédents métiers, cette histoire de jeu vidéo?
Me concernant, oui, je pense que la musique de jeu vidéo, c'est un truc qui fait un peu partie de ma culture et même de mes premiers émois musicaux, parce que je pense j'ai pas grandi en étant infusé d'une énorme culture musicale et en fait j'ai commencé à vraiment écouter de la musique par le jeu vidéo et d'abord avec la NES, avec les classiques que tout le monde a entendu, hein, les Mario, les Zelda, puis après quand je suis passé sur Mega Drive, là où vraiment la musique, le son Sega et le son Mega Drive et les BO de Street of Rage, voilà.
Incroyable, ouais.
Ça, là, je pense que ça m'a vraiment marqué et ça a vraiment commencé à me toucher et à m'intéresser.
Yuzo Koshiro, bien sûr.
Voilà, Koshiro, ouais. Je pense que Koshiro a influencé beaucoup, beaucoup d'artistes.
Ouais, bien sûr, à fond.
Par exemple, Just Blaze, il tire son nom de Blaze de Street of Rage. Donc,
Blaze Fielding,
ouais. Ah, je savais pas ça.
Ouais, carrément. Okay. Donc voilà, enfin moi me concernant ça m'a vraiment ça fait vraiment partie de mes fondations avant que je découvre le rap et que puis d'ailleurs tout est un peu lié parce que je trouve il y a aussi un peu ce côté aussi dans la musique de jeux vidéo où tu vas pouvoir t'inspirer de plein d'esthétiques, enfin en tout cas à l'époque où tu vas vraiment t'inspirer, et on le sent avec la musique de Street of Rage encore une fois et avec le son de Koshiro.
Et d'ailleurs juste avant qu'on suit, ouais, que tu nous parles de ce rapport aux jeux vidéo, à la musique de jeux vidéo dans ton métier ensuite, toi Vladimir, c'est un truc un peu similaire, tu as grandi aussi avec un peu de jeux vidéo, un peu de musique, ou c'est un truc que tu as découvert plus tard avec tes nouveaux, ton métier, etc.
C'est vraiment une aventure humaine qui n'est pas forcément liée initialement à ma culture dans le jeu vidéo. Je ne vais pas citer mes références de quand j'étais enfant parce qu'elles datent de juste après les grottes de Lascaux, donc c'est assez ancien, mais c'est une histoire humaine. Pour aller travailler chez Columbia, je prenais le bus et un jour dans le bus, je tombe sur une jeune femme qui était, je la voyais dans les couloirs de Columbia et on se parlait, enfin elle était au juridique, donc le juridique ça fait toujours peur, etc. Et je m'assois à côté d'elle parce qu'on se disait bonjour, on discute et c'est devenu ma super poteau. Elle s'appelle Patricia, gros big up à Patricia Couteau, éminente avocate. Toujours est-il que des années plus tard, on a aussi travaillé ensemble chez Warner. Et à l'époque, j'avais signé une artiste qui marchait très bien, qui s'appelait Tal. Et un jour, Patricia, qui était à l'époque à la synchro, donc qui s'occupait de tout ce qui était lié aux activités de musique à l'image, m'appelle et me dit « on a une demande pour un jeu qui s'appelle Just Dance ». Et donc, on trouvait ça super chic. C'était la première fois qu'il faisait un deal chez Ubisoft avec une artiste française. Et on était super partants pour le faire, mais en fait, on n'avait jamais fait de synchro dans le jeu vidéo. Donc, on avait dit, comment on fait ? Donc, on avait un peu improvisé un truc, enfin, surtout elle. Moi, j'avais surtout géré la partie artiste. Et puis, des années plus tard, Patricia va retravailler chez Ubisoft. Et puis, elle m'appelle et elle me dit, écoute, on cherche quelqu'un pour ses activités de business. Il faut qu'il ait à la fois l'expérience internationale, la connaissance des labels, etc. Je dis oui, mais moi, le jeu vidéo, j'y connais pas grand-chose. Elle m'a dit, il y a plein de gens chez Ubisoft qui s'y connaissent très, très, très bien en jeu vidéo. Ouais, là, on cherche quelqu'un qui s'y connaît en business de la musique. Et moi, j'ai toujours fait mes choix professionnels en fonction de l'aventure humaine. Et là, j'ai rencontré une équipe qui était vraiment motivée, qui était ouverte à déployer de nouveaux challenges, de nouveaux objectifs. Et j'ai eu un coup de cœur pour cette équipe-là, qui est toujours la même et que j'adore. Et c'est vraiment, vraiment un choix humain.
Ce qu'on peut faire, c'est parce que, alors, Tarafa avait cité Yuzo Koshiro, qui est effectivement un grand. Peut-être qu'on peut s'écouter. Toi, c'est vraiment la BO de Street of Rage qui t'a complètement...
C'est la plus importante. C'est la plus importante, vraiment. Mais après, il y a aussi du Megaman.
Et on mettra un titre de Tal derrière.
Et ben après, non, mais pourquoi pas, on peut mettre Danse de Tal, pourquoi pas.
C'était celui-là.
C'est celui-là.
Mais quelle mémoire.
Non, c'est pas de la mémoire, c'est que j'ai regardé.
Mais The Street of Rage.
On va passer dans un grand écart, mais ça va être intéressant, de Koshiro à Tal. Intéressant. Est-ce que je mets le morceau un peu titre
Oui.
Elle est magnifique, c'est parti.
Et même la musique électronique, la dance, enfin tu sens un peu de tout là-dedans, quoi.
Italo disco.
Complètement.
Ouais, un petit côté Ace of Base.
Totalement.
Ouais, Enigma, mais Enigma, Sandra.
Alors, grand écart donc avec le morceau de Tal. Et je vois d'ailleurs, est-ce qu'il est en featuring avec Florida?
C'est vrai.
Ouais, c'était pour donc vraiment le jeu Just Dance
Alors, c'était le single de Tal de l'époque, et il avait été écrit parce qu'elle rentrait dans Danse avec les Stars. Et je pense que ça a fait mouche dans l'esprit de Just Dance. Alors, c'est vrai qu'elle marchait très fort à cette époque-là, et ça a dû faire mouche dans l'esprit du directeur créatif de Just Dance, qui est aujourd'hui mon boss, Alkis. Et donc, on s'était lancé dans cette aventure. Pour info, le morceau a été produit par Julio Massidi, qui s'est illustré derrière par d'énormes prods pour Ayana Kamura.
Ah, intéressant. Bon, allez, Danse de Tal et Florida. Je ne m'attendais pas à ce qu'on écoute ça un jour.
C'est improbable.
Allez, c'est parti.
La nuit vient de tomber.
On est en période Katy Perry.
L'envie s'éveille en moi. Pour unir enfin nos voix.
quel banger, c'est incroyable.
On aura vraiment tout fait dans cette émission.
Par contre, là, je vois tellement, parce que Just Dance est un jeu où on invite le joueur à danser lui-même.
Ah bah là, oui, là,
on comprend tout de suite la logique.
C'était pas du tout dans cette optique-là que ça a été fait. Je crois que c'est un morceau qui date de 2013.
Ouais.
10 ans plus tard, je suis chez Ubisoft. J'ai envie que vous me réinvitiez dans 10 ans. Je ne sais pas ce que j'aurai à vous raconter, mais ce sera plein de surprises. Mais oui, ce morceau a permis des rencontres qui n'auraient jamais existé. Donc quand je dis que je me laisse porter par des aventures humaines, c'est que ma copine Patricia Tal m'ont amené à Ubisoft. Donc c'est une équation étrange, mais c'est un peu l'histoire de ma vie.
Ouais, mais qui est intéressante parce qu'on voit aussi ces liens justement dont on veut parler aujourd'hui entre industrie musicale et jeux vidéo. Toi, Tarafa, on s'est arrêté plus à ton enfance, entre guillemets. C'est vraiment dans ta culture initiale, la musique des jeux vidéo. Ensuite, en bossant dans l'industrie, chez Idol, est-ce que c'est un truc qui était dans votre quotidien aussi, entre guillemets, de voir le jeu vidéo graviter autour de vous de...
Oui, oui, bah, d'autant plus, moi, en étant en charge d'aller... approcher des labels, des structures, des catalogues, j'avais sans me consacrer exclusivement à la musique de jeux vidéo, ben voilà, j'avais ça dans un coin. Il y a eu Idol collabore avec Ubisoft par exemple, donc sur la distribution numérique.
Faut peut-être préciser quand même que historiquement, le jeu vidéo, donc je crois que le jeu avec Street of Rage sur Mega Drive 91, je crois que c'est le premier jeu où en dessous du 1991 Sega, il y a écrit Music by Yuzo Koshiro. Alors qu'avant, c'était des gens qui étaient in-house. Chez Sega, c'était la Sega Sound Team. Chez Konami, c'était le Kukea Club. Donc c'était des équipes, limite de programmeurs, qui faisaient du son MIDI.
Mais
la technologie permettait pas de faire de faire plus. C'est aussi de l'évolution technologique, les qualités d'enregistrement du CD et de la possibilité d'intégrer de la musique à l'intérieur d'un jeu.
Parce que c'est très lourd.
Parce que après on te laisse terminer Tarafa, mais juste c'est vrai qu'un rappel historique parce que c'est profondément lié aux technologies. C'est-à-dire que bon, il y a l'arcade vraiment initiale, enfin les jeux où c'était vraiment très sommaire.
C'était des blips et des bloops.
Ensuite on passe 8 bits, 16 bits à chaque fois les puces sonores,
polyphoniques,
avec plus de canaux, etc. qui permettent de développer de la musique. Et puis le grand chamboulement, c'est quand même surtout avec la PlayStation, le CD-ROM, où on peut mettre vraiment de l'audio enregistré comme un wave. Et là ça change
Parce que
choses,
justement
quoi.
Ça prenait beaucoup de place et que la place mémoire sur les cartouches avant était très réduite. Donc
C'est sûr. Mais la taille réduite des cartouches, enfin de la mémoire des cartouches de l'époque, c'était pas forcément un frein à la créativité,
bien sûr.
Contraire. Enfin, t'as le rendu chiptune de la NES par exemple, vous le savez, les
même des gens qui encore aujourd'hui cherchent à reproduire ces sonorités.
Bien sûr, big up à Daft Punk et à toute cette musique des années, enfin big up à toute cette musique de première période du jeu vidéo qui a donné plus tard Daft Punk ou des prods de Dr. Luke pour Kesha qui sont clairement inspirés et référencés de cette époque.
Totalement, et t'as une toute une scène aujourd'hui encore vraiment chiptune qui va reproduire ce son, qui se remet ses contraintes,
qui utilise des contrôleurs avec des Game Boy
c'est encore une scène très active et ces contraintes elles ont créé aussi des morceaux incroyables
ce que je voulais dire c'est que pour entendre le morceau qui passait à la radio il a fallu attendre le CD parce que c'était des waves et que ça prenait de la place.
Mais c'est vrai comme on l'observe souvent dans la musique, y compris du côté des compositeurs, etc., les contraintes t'obligent à avoir une forme d'inventivité à créer aussi ta propre esthétique qui reste quoi.
Et ça c'est un truc qu'on a connu dans le rap aussi, dans la prod, dans le beatmaking la SP12, tout ça, enfin c'est avec une fréquence d'échantillonnage, enfin une durée d'échantillonnage très très courte qui a amené c'est ça. donc finalement la création elle dépend du matériel que tu utilises aussi
Est-ce que ça peut... Oui, t'allais dire quelque chose, Vladimir ?
Qu'il y a aussi l'évolution technologique au sein de l'industrie de la musique, c'est-à-dire que cette musique de jeux vidéo qui a évolué effectivement parce que le jeu vidéo a évolué, qu'on a pu intégrer des musiques de plus en plus qualitatives, enregistrer des orchestres, avoir vraiment... Elle était quand même toujours vue de manière un peu... un peu vue de haut par les acteurs de l'industrie de la musique traditionnelle.
C'est une forme de mépris, presque.
je ne sais pas.
Hein, de la part des acteurs de la musique traditionnelle sur plein de trucs hein, sur Internet, le jeu.
Oui. Je sens qu'il y a des comptes qui se règlent à travers moi.
Pas du tout.
Non, c'est pas du mépris. C'est que je pense qu'elle n'était pas connue tout simplement parce que il y avait une communauté. C'est pas nouveau une communauté de gamers. Ça date pas d'avant-hier simplement. Cette musique, elle était éditée en CD et elle était vendue en fan service par correspondance à l'époque. Donc c'était quand même les gamers parlent aux gamers. Le streaming a quand même énormément changé la donne, c'est-à-dire que là on avait des chiffres beaucoup plus concrets qui pouvaient montrer qu'il y avait certaines musiques de jeux vidéo qui perçaient. Alors ça a été dans un premier temps YouTube, puis les plateformes de streaming, aujourd'hui TikTok nous prouvent que il y a des titres, je vais parler des Yos Family, le thème phare d'Assassin's Creed, il pointe à 50 millions de streams. J'aurais bien signé quand j'étais en maison de disque pour 50 millions de streams rapidement, quoi.
Mais on peut peut-être s'écouter ce morceau.
Allons-y, il y a la version traditionnelle de Jesper Kidd ou le remix de Môme ?
Ah bah, on peut se faire un petit extrait des deux, rapidement.
Allez.
Donc, juste on le rappelle, c'était pour la bande-son de Assassin's Creed 2. Ouais. Est-ce que c'est vraiment intégré au jeu ou c'était une forme de promotion?
Non, c'était intégré au jeu. Ouais, et c'est son, pourra même aller plus loin, je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis quasi sûr de mon coup, c'était pas pensé comme un thème. Ouais. C'est la communauté qui en a fait un thème iconique, ce jeu.
Et ben, on s'écoute ça sur la BO d'Assassin's Creed 2 d'Ubisoft. Impressionnant puisqu'on est à 58 millions de streams rien que sur Spotify.
Et encore là, le modèle stream est en train d'évoluer et devient de plus en plus large avec de la pop, etc. Mais je suis arrivé chez Ubisoft il y a 2 ans. Je connaissais pas ce morceau, pour être totalement transparent, quand j'ai vu les chiffres. Quand on disait à l'époque le streaming c'est que pour les rappeurs et quand on isole un petit peu cette musique-là, on s'aperçoit qu'il y a quand même des scores qui sont absolument hallucinants chez Ubisoft, mais aussi chez d'autres éditeurs de jeux vidéo. Et effectivement, le streaming a changé la donne parce que, parler d'Idol qui est un distributeur digital, c'est vraiment une manière pour le public de découvrir en direct cette musique de jeux vidéo sans passer par des moyens de distribution complexes, onéreux.
Allez, un petit extrait rapidos du remix de Mum. Il arrive longtemps après ce remix.
C'est
quoi l'idée? C'est aussi une forme de promotion.
C'était pour le 15e anniversaire de la franchise, parce qu'il faut savoir que ce thème Ezio's Family, il a été réinventé à chaque épisode de la franchise. Il est régulièrement comme un clin d'œil, un petit peu comme ça se fait dans le cinéma où on va retrouver dans un James Bond toujours un peu les mêmes motifs, les harmonies, etc. Là, c'était le 15e anniversaire de la franchise. On voulait relifter à cette occasion le thème. Et on a fait appel à un producteur français très connu, Môme, qui lui-même est fan du jeu et a été honoré de nous faire une version reliftée, reworkée, remixée du morceau.
Allez, on s'écoute ça. Électronique.
Très cool.
Tarafa, on a, si je résume un peu les discussions qu'on a eues juste avant cette écoute, on a compris qu'il y a eu quand même s'il y a des liens ancien entre évidemment musique et jeux vidéo de manière générale, mais même pourquoi pas avec l'industrie. Il y a eu quand même des évolutions technologiques et aussi, d'après ce que disait Vladimir, une évolution économique, entre guillemets, avec des plateformes qui permettent d'accéder à ces musiques. On se rend compte qu'il y a un public. Ouais. Est-ce que, donc, il y a quand même un changement, si je comprends bien, qui s'est opéré avec le temps, qui aujourd'hui prend encore plus grande mesure.
Ouais, une évolution en tout cas. Ouais.
Est-ce que ça s'intègre d'ailleurs dans une logique globale de ce qu'on appelle la synchro, où globalement ça prend de plus en plus de place dans l'industrie musicale?
Alors, moi, j'isolerais quand même le jeu vidéo du reste. Parce que
tu peux juste rappeler, d'ailleurs, synchro de manière générale
Bah, là, franchement, la synchro, je laisserai plutôt Vlad en parler, parce que de notre côté, on voit plus la musique de jeux vidéo. Enfin, ce qui nous intéresse le plus chez Kid Katana, sur les projets sur lesquels on bosse, c'est la création originale. Ouais. Donc, qui est vraiment à distinguer de la synchro, qui est plus l'utilisation de morceaux existants du commerce que tu vas aller plaquer, entre guillemets, sur une publicité ou dans un film ou dans un jeu. Donc évidemment, quand Vladimir bosse sur un Just Dance, t'as des synchros dans tous les sens. Nous, c'est pas notre cas, ou en tout cas, c'est pas notre approche principale quand on va va bosser sur Tortue Ninja.
Voilà. Et quand vous allez chercher Ghostface ou Raekwon, c'est pas pour mettre des morceaux du Wu-Tang.
Non, voilà. Enfin, en tout cas, ça pourrait le faire, et on est capable de le faire. Et voilà. Mais nous, ce qui nous fait kiffer vraiment, c'est créer des morceaux, c'est échanger avec des artistes et le studio pour trouver le. Bon, voilà. Je dis pas qu'il y a pas une dimension créative dans la synchro d'ailleurs, mais c'est pas notre spécialité.
Et toi, surtout, tu le distingues aussi. Tu disais d'abord, c'est pas exactement pareil pour le jeu vidéo. Pourquoi?
Bah, parce que alors je connais
c'est
pas
ton regard,
ouais et je connais pas bien les business de la musique de film au cinéma ou de la publicité, mais j'ai l'impression que pour toute une génération d'artistes, de compositrices, compositeurs ou artistes en tout genre, il y a un vrai attrait, il y a une vraie attirance pour le jeu vidéo, pour le monde du jeu vidéo. C'est plus prestigieux, entre guillemets, je pense, pour un jeune artiste aujourd'hui. Je parle pas de rémunération, parce que là, je pense que on pourrait inverser le constat, mais c'est plus prestigieux de faire la musique d'un beau jeu, d'un grand jeu, que d'une publicité où tu vas plus le faire plus pour l'oseille, plus que pour...
Ça serait plus semblable que pour le cinéma, par exemple, parce que ça peut être prestigieux, le cinéma.
Oui, tout à fait. Mais voilà, je pense qu'il y a un truc, et notamment pour les nouvelles générations, particulier avec le jeu vidéo, et qui se développe particulièrement maintenant, parce que aller travailler sur un film, c'est pas nouveau pour un compositeur ou pour un artiste. Les ponts sont en train de s'affirmer entre le monde de la musique et le monde du jeu vidéo. Je pense qu'on en est... témoins et acteurs. Donc voilà, c'est une dynamique qui est différente quand même.
C'est quoi toi ton regard, Vladimir, sur cette histoire justement de... Est-ce que ce qui se passe autour du jeu vidéo s'intègre dans une dynamique plus globale de synchro? Est-ce qu'il y a une spécificité jeu vidéo?
Alors oui, il faut vraiment distinguer les deux activités. Ça fait partie du challenge, des enjeux. J'épouse totalement ce que vient de dire Tarafa, c'est-à-dire cette passion qu'il peut y avoir pour créer de la musique originale. Ubisoft Music, c'est un label, comme le travail de Tarafa, et on a des superviseurs musicaux. On en a trois au Canada, à Montréal, et un en France, qui s'occupent vraiment de faire le lien avec les compositeurs pour créer cette musique-là, qu'on produit, qu'on développe, qu'on édite, qu'on distribue sur les plateformes digitales, qu'on édite en vinyle, on reparlera, j'imagine. Ouais. En tout cas, il y a une vraie activité de label. Et on a un département synchro qui s'appelle le licensing, avec justement, pareil, deux personnes à Montréal, une personne à Paris et une personne à Shanghai, puisqu'on a des activités, toutes les activités qu'on a sont mondiales. Et là, on s'occupe d'obtenir les droits de titres déjà existants. C'est ça, la synchro, c'est obtenir le droit d'utiliser un titre déjà existant pour le mettre à l'image. C'est le même principe qu'au cinéma, à la télévision, dans la publicité, pour pouvoir justement utiliser des titres soit iconiques, soit liés à l'ADN d'un jeu. de manière très différente. Ça peut être aussi bien une radio in-game dans The Crew, dans Far Cry. Mmh. Ça peut être
ou un GTA dans d'autres, pour d'autres exemples en dehors d'Ubisoft. Ouais.
Exactement, bien évidemment, ou dans FIFA. Mmh. Ou des trailers aussi qui vont pouvoir annoncer l'arrivée d'un jeu avec un titre, plus ou moins connu d'ailleurs. Et l'exception entre guillemets des jeux musicaux, Just Dance, où là ça va vraiment être des titres beaucoup plus gros, qui vont permettre justement de créer des chorégraphies, ce qu'on appelle des maps dans notre jargon, des chorégraphies autour de ça. Et il y a un nouveau genre qui se met en place, c'est ce qu'on appelle la custom track, c'est-à-dire le titre, et ça c'est passionnant, où des acteurs de l'industrie de la musique enregistrée vont créer un titre spécifique pour promouvoir le jeu. C'est un petit peu la recette du cinéma. On va avoir Tina Turner ou Billie Eilish ou d'autres qui vont faire la BO du nouveau James Bond. C'est le même principe. On va faire appel à des artistes pour pouvoir promouvoir le jeu. Ça, c'est une création originale.
Mais c'est un morceau.
C'est pas
l'intégralité du jeu sonorisé.
Non, c'est, en général, c'est un morceau qui va être utilisé pour promouvoir le jeu. Ouais. Ça a été fait, Riot Games a fait ça avec Lil Nas pour l'événement e-sport League of Legends.
C'est avec Imagine Dragons aussi, je dis pas de bêtises. Riot, non?
Riot l'avait fait avec Imagine Dragons, mais c'était pour une série, c'était pour Arkane.
Ah oui.
Chez Ubisoft Music, on l'a fait pour, chez Ubisoft tout court d'ailleurs, on l'a fait pour Assassin's Creed Mirage, le dernier volet de la franchise, avec OneRepublic, un artiste saoudien qui s'appelle Michel Tamer. Et on le fait régulièrement pour par exemple des créations originales Just Dance. On a collaboré avec des producteurs assez connus qui s'appellent Banks & Ranks l'année dernière, qui ont notamment fait des titres pour Sia. Donc il y a de plus en plus de ponts qui se créent entre et d'hybrides entre cette musique originale dont parlait Tarafa, la synchro traditionnelle où on va aller chercher le dernier single de Dua Lipa pour pouvoir le mettre dans Just Dance, et pour promouvoir le jeu et aussi sous une impulsion créative, c'est pas que des histoires de business, et etc. On peut croiser les chemins.
C'est très intéressant, ça nous permet de passer sur la deuxième partie où on va développer justement ces pratiques diverses qui peuvent exister. Juste peut-être toute dernière question pour clore cette partie. Alors là, on sait à peu près comment t'es passé de l'industrie musicale classique à Ubisoft avec cette rencontre, etc. Tu nous en as parlé. Tarafat, tu peux peut-être nous dire, et surtout, est-ce que c'est classique, parce qu'il y a beaucoup de profils comme ça, de ponts, des gens qui ont émergé dans l'industrie musicale et qui se retrouvent soit dans des boîtes indépendantes, soit même chez des éditeurs, développeurs, etc. Pour faire de la musique de jeux vidéo?
Non. Alors déjà, c'est pas une activité qui est très répandue. Enfin, il y a pas énormément de boîtes dans le monde qui font ça.
Tu veux dire qui spécifiquement?
Ouais, qui se spécialisent, enfin de labels spécialisés en musique de jeux vidéo. Okay. Et puis nous, on a à la fois un pied dans la création et ensuite, on en reparlera dans la distribution, la diffusion des BO en digital, en vinyle, etc. Enfin, en physique. J'ai pas énormément d'exemples. Il en existe d'autres, hein, mais voilà, c'est très
énorme non plus.
Non, c'est assez, c'est assez niche et c'est assez rare. J'ai l'impression que la plupart des autres boîtes qui existent, c'est plus des gens qui viennent vraiment du monde du jeu vidéo, peut-être de la technique, du sound design, de la localisation, de choses comme ça qui sont voilà. Alors que c'est assez. Enfin, j'ai pas d'autres expériences similaires.
C'est typique en fait. Tu confirmes ça? Là, par exemple, chez un éditeur, est-ce qu'on va recruter spécifiquement beaucoup de gens de l'industrie musicale?
Il y en a quand même quelques-uns aux États-Unis parce que c'est là que la plupart de l'activité se déroule. Mais j'ai pu voir soit chez mes homologues, soit en discutant comme ça, qu'il y avait quand même quelques personnes qui venaient de l'industrie de la musique. Après, c'est un énorme enjeu parce que on a parlé de création originale, on a parlé de synchro licensing. Dans une major compagnie, c'est vraiment deux activités séparées. Donc, il y a un triple challenge. D'abord, la connaissance pour pouvoir faire tout ça. Ça demande beaucoup, entre guillemets, de connaissances et de débrouillardise. Je dis pas du tout ça. Il faut connaître beaucoup de choses. En plus, la télévision, le cinéma, c'est quand même des activités qui sont établies depuis un moment. Il y a un cadre business, légal, qui est là depuis la nuit des temps. Le jeu vidéo, c'est nouveau. Le jeu vidéo, ça évolue. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une quinzaine d'années, c'était très compliqué de mettre un titre sur YouTube. Si vous vous rappelez des premières époques de Spotify, il n'y avait pas tout ce qu'on voulait sur Spotify. Il a fallu des années et des années. Donc, c'est des négociations, c'est des discussions, etc. C'est le même principe dans le jeu vidéo. on est en train de construire et d'apprendre à collaborer ensemble.
J'ai une question justement. Vas-y si tu veux.
Vas-y, ouais.
Bah, en fait, c'est sur le. Donc, quand il y a du licensing pour de la synchro, donc des titres qui existent, mm-hmm. qu'on met dans une radio in-game par exemple, mm-hmm. est-ce qu'il y a un engagement en termes de durée par exemple, ce morceau-là qu'on va mettre dans The Crew, il sera disponible pendant 5 ans et puis après. On le fait dégager avec une mise à jour du jeu ou ce genre de truc. Parce qu'il me semble qu'on avait vu ça. Mm-hmm. Je sais pas si c'était sur un GTA, mais dans GTA, t'as plusieurs radios que t'écoutes quand t'es en voiture dans le jeu, ce qui arrive un peu tout le temps en fait. Mm-hmm. Et il me semble qu'il y avait un truc où bah il y avait une radio qui avait été sinistrée, c'est un peu comme dans Spotify quand okay. les morceaux disparaissent.
Vous avez acquis les droits, mais c'était temporaire.
Bah ouais, en fait.
Okay. Ce sont des négociations de gré à gré. C'est mm-hmm. Il n'y a pas de cadre, en fait, etc. Ouais. Donc forcément, il y a des moments où les licences expirent, mm-hmm. et dans ces cas-là, tout est histoire de renégociation. Ouais. Mais c'est pareil, ça à la limite, c'est à peu près pareil dans l'industrie de la musique classique, enfin la musique enregistrée traditionnelle.
Oui, mais ce qui est différent, c'est que la musique enregistrée traditionnelle, bon, j'achète un album, tant que je l'ai, même si l'artiste, entre-temps, n'est plus dans le label, ouais. machin, mon album, il se dissout pas, tu vois.
Avec les plateformes de streaming, c'est un peu différent.
Oui, mais avec ce que j'allais dire, c'est le même principe. De temps en temps, t'as un titre en grisé dans un album parce qu'il n'est plus disponible. Ouais. Donc, c'est le même principe, en fait. La licence à perpétuité, ça n'existe pas. C'est toujours limité dans le temps. Ou alors, il va y avoir ce qu'on appelle, je vais pas ennuyer les gens, mais ce qu'on appelle des clauses d'archivage qui fait que ton trailer, par exemple, t'as les droits pour X années, mais t'as pas à cliner tout le web, c'est-à-dire tu peux pas te permettre de le réutiliser à nouveau pour communiquer sur ton projet, mais ce qui existe demeure.
Oui,
donc, je peux donner autant d'exemples que ce qu'il existe de trailers, de radio in-game, etc. Tout ça, ce sont des négociations de gré à gré, et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là où l'expertise de gens qui ont déjà travaillé dans la musique enregistrée, et sans dire de bêtises, je crois que tous ceux qui sont à la synchro chez Ubisoft Music ont eu une expérience plus ou moins longue dans l'industrie de la musique, que ce soit chez un producteur, donc côté master, ou que ce soit chez un éditeur côté ayant droit auteur-compositeur. Parce que quand même, ça demande une technicité et une connaissance qui n'est pas forcément...
Tu dis donc que c'est du gré à gré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de deal cadre, mais est-ce qu'il y a quand même une durée à peu près standard où on se dit ça serait bien qu'on ait le morceau pour 5 ans, 6 ans, la durée du jeu.
Oui, il y a des négociations qui se font autour de ça, mais là où je dis qu'il n'y a pas de deal cadre, c'est que oui, il y a des jeux où il y a des deal cadres. Eu égard et par respect pour mon employeur, je ne les divulguerai pas parce que ce sont des secrets industriels. Mais pour ce qui est de ces deals, ils dépendent du jeu, ils dépendent de renégociations, ils dépendent de des ayants droit. Il y a beaucoup de... Parce qu'il faut savoir que souvent, on a l'impression que pour obtenir les droits sur un titre, on téléphone à quelqu'un et on a la réponse tout de suite. C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple que je prends souvent dans l'album de Renaissance de Beyoncé qu'elle a sorti il y a 2 ans. Il y a parfois jusqu'à 17 co-auteurs sur un morceau. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle a samplé et il faut l'accord des 17 co-auteurs du morceau, et ces personnes-là peuvent avoir 17 représentants différents. Donc tout ça fait que voilà, c'est pas que c'est genre c'est un domaine complexe, et il y a une phrase qui existe souvent dans, je sais pas si tu l'as déjà entendu, Tarafa, en anglais on dit music is not a commodity, c'est-à-dire la musique c'est pas une marchandise, c'est pas j'arrive, je veux cette table, je l'achète et puis désormais elle est à moi, c'est plus compliqué que ça. Donc effectivement il y a la musique, pour schématiser sur cette partie-là, il y a la musique qu'on crée, la musique originale dont on parle, et il y a la musique qu'on loue. Je prends souvent cette image-là. Tu loues une location saisonnière à Airbnb, tu peux louer un jour, un mois, un an.
Mais en fait, ce qui est notable, c'est que dans la tête du public, et je me considère vraiment comme le public de base, en fait, du coup, on se retrouve confronté à ces problématiques qu'on n'avait pas du tout avant, tu vois. C'est-à-dire que tu disais, un truc, tu mets un morceau sur un support, sur un film, il est avec le film jusqu'à la fin, tu vois. Et en fait,
dématérialisé.
Tu te retrouves avec des trucs où là, tu dis, attends, le Wipeout là de la PlayStation 1, si il le réédite, c'est pas sûr que j'ai tous les tracks des Chemical Brothers parce que entre temps, et en fait, par exemple pour Wipeout, qui est vraiment un jeu où là aussi à l'ère moderne, donc sur PlayStation, c'était vraiment un des premiers jeux à mettre autant en avant les compositeurs, que enfin c'était quasiment aussi important que le jeu en lui-même, tu vois, parce que je crois que le nom Chemical Brothers était quasiment aussi gros que Wipeout sur la jaquette.
Ah ouais, ils avaient carrément mis
ça. Ah ouais, c'est parce que c'était écrit vraiment sound design ou music by Chemical Brothers, et tout. Moi, je sais quoi Chemical Brothers, tu vois, je connaissais même pas. Mais du coup, tu te dis, là pour le coup, c'est l'identité du jeu qui est associée vraiment très fortement à ces artistes. Et du coup, bah, si le jeu ressort et réédité et que bah, le contrat finalement a expiré et donc on n'a plus les droits, bah, tu bousilles complètement l'expérience du jeu. Ouais. Tu vois, c'est ça qui
Alors, c'est vrai et c'est tout le challenge. Et c'est peut-être pour ça qu'on fait appel à des profils comme les nôtres, parce qu'on a l'habitude de dealer ce genre de cas. Mais c'est, en réalité, c'est pas nouveau. C'est juste que toi, tu le vois désormais. Je veux dire, il y a des disques qu'on trouvait plus dans le commerce parce que le producteur n'avait plus les droits. Et je vais même aller plus loin, pour avoir traîné mes guêtres dans plusieurs major companies, au gré des fusions, des rachats, des départs des uns, des autres, des déménagements de bureaux, etc. Il y a des trucs, tu demandes est-ce qu'on a les droits sur ça, ils vont te répondre on sait pas, en fait. Non, mais c'est pas forcément parce qu'ils veulent pas parce qu'ils ont pas envie de travailler ou parce qu'ils ont pas l'information. Ça dépend de la manière dont le contrat est rédigé. Il y a beaucoup, en fait, on a l'impression que c'est très simple et que t'es toujours la même règle, etc. Or, la propriété intellectuelle, le business, l'évolution technologique, le fait que des gens arrivent, s'en aillent, etc. Ça crée parfois un flou. Et ça peut être, c'est vrai, un bazar. Mais c'est pas le nouveau, c'est pas lié à l'industrie du jeu vidéo, c'est la propriété intellectuelle. Encore une fois, si j'achète cette table et que j'ai un ticket de caisse, elle est à moi. Maintenant, de la musique, ça ne se vend pas, donc c'est beaucoup plus complexe. Et la technologie, comme tu dis, avant, un jeu n'était plus disponible, était plus disponible. Ouais. Aujourd'hui, on réédite, on laisse
à dispo. Parce qu'en plus, maintenant, on a vraiment, notamment avec la dernière génération, les dernières générations de consoles, on est habitué à des remasters, à des remakes, à des reboots, chose qu'on n'avait pas forcément avant. Il n'y avait pas de reboot d'un jeu NES à l'époque. Et du coup, on se retrouve confronté vraiment à ce truc-là, tu vois, où tu dis, putain, j'ai l'impression qu'il manque un morceau.
Juste une mise à jour, quoi.
Bien sûr.
Et vraiment, c'est un point qui. Tout le licensing autour, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup.
Et tu sais ce que je te propose ?
Ouais.
C'est qu'on passe vraiment au cœur de la deuxième partie.
Allez.
Où on parle de ces pratiques diverses. Je résume, si j'ai bien compris. On a principalement trois pratiques, vous me dites si j'en manque quelques-unes, mais qui sont le licensing, qui sont custom track et la production vraiment originale pour intégrer dans le jeu. C'est ça à peu près ?
C'est ça, sachant que le custom track peut être intégré à la musique originale.
Si on part donc de ces trois bases qu'on va essayer d'explorer un peu en prenant l'exemple chacun dans votre boîte, etc. Peut-être qu'on peut commencer avec Kid Katana. Est-ce que déjà vous touchez aux trois?
On fait les trois. Nous, de toute façon, on est au service des studios et des éditeurs avec lesquels on bosse. Donc
ça se passe plutôt dans le sens, c'est eux qui vont venir vous voir ou comment ça se passe? C'est un éditeur dit
j'ai un jeu,
je suis pas Ubisoft, j'ai pas en interne de quoi faire toute la musique, etc. Ou d'ailleurs peut-être que Ubisoft peut faire appel aussi à des gens extérieurs, j'en sais rien.
Pour composer, tu veux dire? On fait systématiquement appel à des compositeurs extérieurs,
Ça certainement, mais une boîte qui va se charger elle-même de trouver potentiellement compositeurs.
Il y a Tarafa pour ça.
Qui sont vos clients entre guillemets?
C'est la constellation de studios et d'éditeurs indés qui existent. Potentiellement, on peut travailler avec tout le monde.
Ils viennent te voir et te disent on a un jeu.
En fait, c'est assez variable parce que étant donné qu'on est capable de faire tout ce qu'on a cité, on bosse par exemple en ce moment sur un petit jeu. De la franchise G.I. Joe. Bon, c'est un jeu qui va arriver là dans quelques mois. Là, pour le coup, on fait tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on nous a dit, voilà le budget audio, même pas le budget musique, voilà le budget audio.
Ah ouais.
On veut...
Vous faites le sound design aussi
On fait le sound design, on fait toute la musique, on fait l'intégration et on fait... c'est un petit jeu, mais on fait...
Pourquoi l'intégration, pardon ?
Une fois que t'as réalisé ta musique et tes bruitages, il faut les intégrer dans le jeu.
C'est une phase technique
technique. Oui, en l'occurrence, on travaille avec des gens qui le font avec nous. C'est pas vraiment pas notre cœur de métier, parce que nous, notre cœur de métier, c'est vraiment assister la création de la musique. Mais pour dire que en tant que boîte à outils, on est capable de faire d'aller aussi loin que ça.
Est-ce que à ce moment-là, pour oui, tu... pardon, t'allais
non,
dire.
Non,
est-ce que peut-être pour concrétiser entre guillemets le truc, tu peux nous dire sur une expérience comme sur les Tortues Ninja ou Street of Rage, comment l'éditeur vient vous voir, quel est le brief et ensuite comment se passe la collaboration. C'est un peu large comme question, mais si on doit retenir l'essentiel, tu vois.
Bon, comme je te disais, c'est variable, mais effectivement, si on prend l'exemple de Tortue Ninja, c'est Dotemu avec qui on avait déjà bossé sur Street of Rage, qui vient nous voir et qui nous dit bon bah les gars, très bonne nouvelle, on vient de signer un jeu Tortue. Spirituelle suite de Turtle in Time, bon voilà,
un jeu mythique sur Super NES, bien sûr.
Étant tous fans de la franchise, de ce jeu, super. Et ensuite, donc il y a plusieurs strates. Il y a le compositeur principal, donc qui en l'occurrence est T-Lobs, qui est le compositeur qui a bossé sur Sonic Mania précédemment, et donc voilà, qui a un compositeur avec qui on bosse beaucoup et dont on est très proche. Là, dans ce cas-là, le compositeur était déjà trouvé.
C'est eux qui l'avaient déjà.
Il était déjà trouvé par le studio. Donc nous, on n'a pas touché à ça. Ensuite, nous, on a touché à la création de custom track, qu'on appelle nous spotlight tracks, tu vois.
C'est tellement nouveau qu'il n'y a pas encore de mot officiel.
Ou guest tracks, enfin voilà, tu peux.
Ou création originale.
Ouais. Et donc là, c'était la reprise du thème des Tortues Ninja de 87 que vous connaissez tous, que je vais pas chanter, reprise en l'occurrence par Mike Patton. Donc là, t'as des questions de droit, de comment tu clear, tu récupères les droits de la du morceau.
De la BO.
Parce que, juste pour qu'on comprenne bien, parce que Tortue Ninja, c'est une licence qui appartient, j'imagine, à quelqu'un aussi. Je crois que c'est Nickelodeon.
Ouais.
Donc, Nickelodeon, ils ont donné quoi? Le droit d'exploitation pour un jeu vidéo à Dotemu, j'imagine? Ça se passe un peu comme
ça? Ouais, c'est ça. Sur la licence Tortue Ninja. Okay. Mais le morceau n'appartient pas à Nickelodeon. Le morceau, il appartient à Universal. Donc on est allé clearer ce qu'on appelle clearer.
Clearer les droits pour
l'exploiter. C'est voilà. Faire ça. Mais c'est même pas eux qui s'occupent de vous filer le package en mode...
Non, pas forcément. C'est vraiment du cas par cas où tu peux avoir dans un pack de licence, tu vas avoir la musique qui va avec ou non, en fonction de ce que le studio, de ce que l'éditeur a négocié.
D'accord.
Voilà. Et là, en l'occurrence, c'était une discussion à part avec un ayant droit différent. Et ensuite, tout le boulot, ça a été d'aller chercher Mike Patton, de monter l'équipe pour refaire le morceau en version actualisée. D'ailleurs, c'est JB, Jean-Baptiste Anac, que vous aviez. Qui était vraiment le moteur de ce morceau et de la prod du morceau sur lequel est venu poser Mike Patton. Donc JB avec son frère Cédric et avec Olivier Dax. Donc là, voilà, on a vraiment accompagné toute la créa, toute la prod plutôt du morceau. Quoi.
Et alors, custom track, spotlight track, c'est ça le terme ça veut dire que ça apparaît quand même dans le jeu, mais pourquoi la différencier d'une production originale pour le jeu?
C'est un peu, en l'occurrence, c'est parce que ce spotlight track, il était créé, on était au tout début de la prod du jeu, il n'était même pas spécialement réfléchi pour le jeu, il était pour ce qu'on appelle le reveal trailer, donc le trailer d'annonce du jeu.
Donc il y a cet aspect promotionnel qui est quand même vraiment en tête.
Totalement.
Mais alors, la question, c'est donc le thème original, il appartient à Universal.
Oui.
Vous le refaites avec Mike Patton.
Oui.
Est-ce que du coup, ce nouveau track qui était un spotlight track, il peut être réintégré par Nickelodeon sur. Enfin, est-ce qu'ils peuvent eux s'en resservir pour sonoriser s'ils ressortent?
Ça dépend du contrat.
Ouais, c'est ça, D'accord.
Ok.
Ouais.
On s'écoute un extrait d'ailleurs de cette spotlight track de Mike Patton. Donc, il reprend le thème qu'on connaît tous des Tortues Ninja, quoi.
J'ai des paroles en français en fait.
Ok, on voit bien.
Ouais.
Voilà, oui, là, c'est de l'hommage appuyé.
Donc c'était ça vraiment la base de la collaboration sur ce projet. Et ensuite, c'était l'autre Spotlight Tracks qui est le morceau du Wu-Tang, de Ghostface Iroquois, où là, pour le coup, c'est à la fois ce qu'on a du in-game, donc c'est dans le jeu, c'est le morceau qui se déclenche lors du combat final contre Shredder. Bon, je spoil rien de incroyable.
Shredder's Revenge,
ça alors.
Et c'était également évidemment un argument marketing et une annonce à quelques jours. Je crois qu'on, enfin, Dotemu l'avait annoncé une semaine avant la sortie du jeu. C'était boum, le Wu-Tang qui est dans le jeu et en diffusant le morceau également, quoi. Donc
Et ça, c'est vous. C'est-à-dire que de la part de Dotemu, ils avaient aucune. Le Wu-Tang, ça aurait pu être Nas, ça aurait pu être n'importe qui.
Mais d'ailleurs, est-ce qu'ils ont briefé en vain truc rap ou c'est vraiment vous qui amenez ça?
C'est
vraiment.
L'ADN du jeu, quand même, c'est très.
Oui, en l'occurrence, c'est vraiment arrivé dans un brainstorm ensemble.
Ouais, d'accord.
Il se trouve que Dotemu est le boss de Dotemu qui s'appelle Cyril et que je salue au passage. Il est hyper. Intéressé par la musique, enfin c'est un musicien lui-même, donc la question de la musique ça lui tient vraiment à cœur. Donc ces questions créatives et ces discussions artistiques,
ça se fait ensemble.
Ouais. Mais après tu peux avoir des cas où sur certains projets le studio ou l'éditeur a pas d'idée particulière et c'est à nous d'aller un petit peu déclencher le truc. Mais là oui, il y avait l'idée comme c'est
à New York et tout machin.
New York rétro, ouais. Années 90.
Oui, c'était logique.
Shaolin, voilà, enfin ouais. ça semblait évident et d'ailleurs enfin quand on leur a parlé enfin quand on les a contactés, c'était aussi ce qu'ils nous ont dit, quoi. Pourquoi personne nous a proposé avant. Donc voilà, très cool. Et puis après, faut coordonner le truc pour que le morceau soit bien, pour que les gars aillent au studio. C'était encore un peu en période Covid, donc nous on n'a pas pu se déplacer et c'est du jour au lendemain où ils t'écrivent les gars sont en train d'aller au studio. Oui, mais attendez, il fallait qu'on valide les lyrics parce que c'est un jeu méga grand public. Donc on se retrouve à des heures pas possibles à valider des screenshots de l'appli Note iPhone de Ghostface pour dire attends, non, ce mot là ça pourra pas passer.
Pas ouf, ouais.
et dans ce genre de cas, qui est le producteur, qui a mis de l'argent pour les sessions studio, etc.?
C'est l'éditeur du jeu.
C'est l'éditeur, ouais, du jeu.
C'est l'éditeur du jeu qui finance le jeu et qui finance qui est le producteur donc de ces enregistrements.
Si donc vous mettez d'accord, ça serait quand même bien d'avoir Ghostface ou Raekwon ou Wu-Tang au couplet pour le truc. Ok, let's go, machin. Évidemment, si d'un seul coup on se rend compte que le cachet que les artistes demandent est trop élevé, l'éditeur il va dire c'est mort.
Oui, c'est ça fait partie de notre boulot d'aller négocier, de contacter les bonnes personnes. Là, en l'occurrence, on avait un bon contact qui connaissait bien, qui est très proche de Reza, qui nous a mis en contact. Voilà, ça s'est fait. Ça fait partie de ce qu'on amène.
Toi, Vladimir, ton côté, on parlera après de licensing, mais on reste sur cette idée de production originale, que ce soit custom track ou pas, etc. Vous, ça se passe forcément différemment, puisque c'est en interne, vous avez un jeu qui va sortir, et vous vous dites, on a besoin de musique. C'est quoi l'original? C'est quoi le premier réflexe? On a des équipes pour ça?
Oui, c'est vraiment la mission de nos music supervisors. Donc, je disais, ils sont essentiellement à Montréal et on en a un près de chez nous à Paris. Et eux sont vraiment au cœur des studios de production de développement de jeux vidéo. Vont discuter avec ce qu'on appelle la core team, les équipes vraiment qui vont développer le jeu. Donc, parfois, ils sont au courant de l'existence de projets très, très, très en amont. On développe un univers, on va leur présenter un peu les projets. Et comme le disait Tarafa, c'est pas si éloigné que ça. Parfois, il y a un nom qui surgit directement de la prod parce que historiquement il y a une personne qui a marqué de sa patte le jeu et on va naturellement retourner vers cette personne là ou parfois les music supervisors font appel aussi. Il y a des vraiment de plus en plus d'agents à Hollywood spécialisés dans les musiques, bien évidemment de films, de musique à l'image, mais aussi de jeux vidéo. Ils vont faire appel à des gens, donner leur chance à des gens. Bien sûr, ils ne vont pas se retrouver tout de suite sur un triple A, quoique.
Juste précise, un triple A, c'est un jeu à gros budget.
Un gros jeu, un blockbuster.
Là, justement, puisqu'on parle d'Ubisoft. On a Star Wars Outlaws qui va arriver. J'imagine que ça, côté musique, ça a dû être un gros gros projet aussi parce que bah, c'est iconique comme
on va chercher un John Williams par exemple pour un jeu Star Wars ou alors parce que d'ailleurs on peut exploiter la musique de John Williams.
Je ne peux vraiment pas vous parler de Star Wars. Désolé, bien tenté les gars, ouais, mais t'aurais fait plus de compliments sur Columbia, j'aurais peut-être lâché un truc. Je ne peux absolument pas. Je vais prendre un exemple
déjà sorti
qui est Assassin's Creed Valhalla qui donc a été un gros blockbuster chez Ubisoft. Simon Landry, le music supervisor, a fait appel à une jeune compositrice qui s'appelle Stéphanie Economou. Elle ne sortait pas non plus de nulle part. Hein. Elle avait assisté des gros compos, des gros réalisateurs. Il lui a donné sa chance sur un DLC qui s'appelait Dawn of Ragnarok. Et c'est un souvenir extraordinaire pour tout le monde parce que les Grammy Awards ont créé la catégorie meilleure musique de jeu vidéo en 2023. Et c'est Stéphanie Economou qui a remporté ce Grammy. Donc, il y a tout un travail quand on crée de la musique originale. C'est pas si, encore une fois, c'est pas si différent du travail qu'on peut avoir dans un label. C'est-à-dire découvrir des talents et les mettre au service d'un projet. La seule différence, et ce qui est vraiment primordial, c'est que le jeu vidéo, c'est une œuvre collective. La musique qu'on utilise, et c'est vraiment un challenge pour nous dans le département musique, la première usage qu'elle a, cette musique, c'est d'illustrer le jeu, d'accompagner le joueur dans ses actions, de renforcer la narration. Donc, elle a vraiment une fonction à l'image. Et après, à nous de faire en sorte qu'elle soit aussi existante en vinyle sur des playlists Spotify ou Apple Music ou Amazon ou Deezer. Désolé, j'en ai dit un, faut que je les dise tous. Mais c'est cette fonction première, donc cette musique originale-là. Il y a beaucoup de manières de la faire surgir. Et c'est encore une fois, ça reste de l'humain, du réseau, des conversations, des essais. Qui se transforme.
Il y a deux fois des trucs qui ne sont pas concluants et du coup.
Comme dans toute la musique, ouais. Il y a des choses, voilà, les essais en studio, l'adaptation, la compréhension du jeu. Bien souvent, comme on a des bons superviseurs musicaux, ça fit, ils font les bonnes propositions. Et c'est très très large. C'est-à-dire qu'entre la musique de The Crew Motorfest, la musique d'Assassin's Creed et un titre original fait pour Just Dance, il y a quatre mondes.
T'allais réagir,
ouais. Ouais, mais enfin, ce que tu dis me fait penser à. Enfin, quand tu parles d'œuvre collective, et ça me refait penser à ce que tu disais tout à l'heure, Daz, sur l'intro de Street of Rage ou ta musique by Yuzo Koshiro. Enfin, c'est vrai qu'il y a un truc qui est quand même aussi, je trouve, une force de la musique de jeux vidéo dans cet univers et dans ce monde où finalement c'est parfois un peu anonymisé, les équipes qui vont bosser sur un jeu. Au final, t'as pas force. Des noms à part des gros game director qui un peu starifié
ou des choses comme ça.
Ouais. Mais sinon, souvent le compositeur ou la compositrice se retrouve comme un nom qui est très mis en avant.
Parce qu'il est plus connu du grand public au final.
Bah parce que c'est souvent une personne et c'est pas et aujourd'hui on donne le nom des personnes qui ont fait la musique, c'est pas juste la Namco Centim ou quoi, enfin encore que si parfois, mais du coup ça crée aussi une incarnation du jeu.
Bah, tu sais que quand t'as un jeu genre un RPG japonais et que c'est Uematsu qui est sur la musique, tu dis ok, je sais pourquoi j'y vais.
Mais je pense même à des exemples. Alors ils sont pas récents, mais c'était il y a pas si longtemps. Je pense à un Hans Zimmer, à un Michael Giacchino qui sont vraiment des grands de la musique hollywoodienne qui ont aussi fait du jeu vidéo, quoi.
Oui.
Parce que c'est des produits d'appel, j'imagine, aussi, d'une certaine manière.
Mais le monde évolue. Et le monde évolue, c'est-à-dire, si on fait encore un parallèle, j'aime beaucoup, parce qu'on a eu tendance pendant des années à, et c'est peut-être pour ça, à mettre le gaming d'un côté et les industries traditionnelles de l'autre, et à vraiment les opposer, alors qu'en fait, ce sont des mondes qui se complètent et qui se répondent. Pendant des années, il était honteux pour un compositeur du cinéma de faire de la musique à la télévision. Aujourd'hui, je pense qu'il est aussi noble de faire de la bonne musique sur une série Netflix qu'un best-seller au cinéma. C'est pareil, le jeu vidéo trouve chaque jour un peu plus ses lettres de noblesse et pas, on a parlé des Grammy Awards, c'est quand même le Graal en termes de musique enregistrée.
C'est bizarre qu'il arrive aussi tard d'ailleurs, 2023, c'est quand même... C'est étrange.
C'est un beau symbole.
En tout cas, c'est arrivé. C'est arrivé la même année où les rappeurs ont commencé à gagner des victoires de la musique. Donc, tu vois, on est à peu près.
Mais d'ailleurs, il y a un gros point commun, je trouve, entre le rap et la musique de jeux vidéo, enfin, et le monde du jeu vidéo de façon générale, c'est que ces deux univers qui sont aujourd'hui des grosses industries.
Et à la base, c'était des sous-cultures.
Tout à fait. Mmh. Et elles sont toujours un peu. Bah, on parlait un peu de mépris, ou en tout cas, elles sont toujours un peu regardées de haut par certaines institutions ou certains.
C'est peut-être de la.
Et je pense qu'il y a un peu une sorte de ouais, de traumatisme au sein du. Enfin, parmi les rappeurs, c'est évident. mais aussi dans le monde du jeu vidéo, où un peu, du coup, du mal à vraiment s'affirmer et un peu. La légitimité, elle est dure à aller.
C'est de l'imposteur un peu.
Oui, puis ce sont des industries qui apprennent à se connaître. C'est-à-dire que moi, j'étais novice dans. Bon, je suis toujours assez débutant dans le jeu vidéo, mais dans la musique de jeu vidéo, j'étais quand même assez novice. Mmh. J'ai découvert tout un pan, on en parlait avec Ezio Family tout à l'heure, tout un pan de la musique qui existe et qui est là et qui est important. Et quand on est peut-être dans un label traditionnel, un peu focus sur le développement d'artistes, la gestion d'artistes, on n'a peut-être pas le temps de passer des heures et des heures à s'imaginer que tout ça existe. Et inversement, quand on est en train de développer, parce qu'il y a certains jeux vidéo, ce sont des timings de blockbusters hollywoodiens. Ce sont des années, pas forcément le temps de s'intéresser à tout ce qui sort, à tout ce qui.
Donc, d'ailleurs, en termes de timing, pardon, je t'interromps, mais parce que tu abordes le sujet. Le développement de la musique, est-ce qu'il se fait vraiment dès le début du projet en parallèle du développement du jeu en lui-même? Est-ce que ça arrive en général plus tard?
Ça dépend,
très tôt.
C'est très tôt, mais ça dépend.
Chez Ubisoft, peut-être c'est très tôt, c'est Charles, c'est ça?
J'ai l'impression qu'on tient au courant, c'est tôt ce qui se passe. Peut-être que.
Ouais.
Peut-être c'est par politesse.
C'est différent avec les plus petites boîtes.
Ouais, c'est différent. Et
ça dépend du budget aussi.
C'est assez variable. Et ça dépend de l'importance de la musique dans le jeu, de l'intérêt pour la musique des développeurs. J'ai vu des cas où jusqu'à 3 jours avant le lancement sur Steam, c'était de la musique de librairie
Placeholder
et c'était en dernière minute
moi je me fais un ulcère
et le résultat est mortel.
Et en 3 jours ils ont réussi à
non,
mettre
il une... y avait un compositeur qui bossait
c'était pas intégré et tout quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais il y a plein de. Enfin,
excuse-moi, et à l'inverse, sur Tortue Ninja et sur d'autres projets en cours, on est vraiment à la toute base dans les discussions et la question de la musique se pose dès le début.
Ça dépend. Il y a beaucoup de threads Twitter. Enfin, beaucoup. Il y en a un certain nombre de compositeurs qui disent putain, c'est plus possible. Les mecs, ils m'appellent last minute, ils me demandent 157 minutes de musique pour demain matin. C'est n'importe quoi, j'en ai marre. Et donc, tu comprends que, effectivement, l'intégration de l'aspect musical au sein du projet du jeu en lui-même dépend fortement de l'appétence qu'ont les responsables.
C'est ça, et des autres problèmes qu'ils peuvent avoir par ailleurs dans leur projet.
Avec le budget qu'ils font, du coup, ils coupent sur la musique.
C'est ça, mais c'est un peu malheureux, parce que c'est pareil dans le cinéma, je pense. C'est souvent la musique, c'est la dernière roue du carrosse, alors que c'est méga important dans l'expérience que tu vas avoir au final.
Mais là encore, je pense qu'il y a une question de point de vue. Vraiment, je ne veux pas passer pour un robinet d'eau tiède, mais il y a une vraie question de point de vue, parce que souvent, il y a des jeunes compositeurs qui viennent nous voir et qui nous disent j'adore le jeu vidéo, je voudrais faire de la musique à l'image. Et je réponds toujours la même chose, on en avait déjà parlé la dernière fois, à savoir, il ne faut pas faire ça sous prétexte qu'on n'a pas réussi à faire une carrière de front artiste ou qu'on n'a pas réussi à faire une carrière d'auteur-compositeur entre guillemets pop, mainstream, etc. Et qu'on se dit je veux quand même exister dans la zig, donc je vais faire de la musique de jeux vidéo.
Oui, c'est pas, c'est quand pas un pis-aller, quoi.
Comme je le disais tout à l'heure, quand on fait de la musique de jeux vidéo, on est au service d'une œuvre plus globale. Quand on est artiste-interprète ou qu'on travaille autour d'un artiste-interprète, on travaille autour, en studio, dans une équipe en général restreinte, pour faire une œuvre, créer un single, un album, peu importe, un EP. Et après, derrière, il y a une personne, front de personne, qui va assurer la promotion. Quand on fait de la musique pour un jeu vidéo, ou un film d'ailleurs, on est au service d'une œuvre plus globale. Donc forcément, les décisions et le timing de production de ce jeu-là va forcément diriger la musique dans une direction ou une autre. Et je ne veux pas présumer de qui a écrit quoi sur Twitter, etc. Mais je suis assez surpris d'un artiste qui viendrait dire « Ah, oh, vous vous rendez pas compte ?» Mais en fait, dans ton ton vous vous rendez pas compte est le fruit de 50 décisions ultra importantes qui vont pouvoir influer sur le process de production et qui sont extrêmement importantes. Et c'est vrai que parfois, je comprends, parce que quand on est artiste et qu'on est compositeur, on veut avoir cet input et livrer le meilleur.
Non, alors c'était le truc, c'était que en fait, je pense que l'expérience que toi tu en as, c'est parce que tu bosses chez Ubi, qui a des budgets pharaoniques sur des jeux qui sont très très importants. Là, c'était plus un type qui était appelé par des petits studios, des fois des studios de deux personnes, tu vois, et qui vraiment, limite, lui ont dit « Bon mec, j'ai 3 tickets restaurant, est-ce que tu peux me faire la bande-son de mon jeu, s'il te plaît ?» Tu sais, c'est vraiment...
Mais c'est pareil entre un label indé et Columbia, qui va t'appeler...
qui drop.
Mais non, il drop pas. Alors ça, on va arrêter tout de suite. Non. Surtout que c'est vraiment... faux.
Bon, c'est la dernière. Non, non.
En colère. Julio Iglesias, 60 ans qu'il y est.
J'ai peur.
Bah, Gazo. Ah non, il est chez Epic. Mais
c'est
non.
Sony quand même, mais bon.
Oui, c'est Sony. Ouais. Bon, plus sérieusement, pour revenir à nos moutons, quand un label indé fait appel à toi pour pouvoir produire un titre, ou quand une major compagnie fait appel à toi, c'est pas le même budget, mais parfois le timing il est court, parfois le timing il est long.
Bien sûr.
Je suis pas sûr que ça se résume juste à cette histoire de
budget,
je dis
juste,
mais
ça existe, tu vois.
Bah, bien sûr que ça existe.
Ça existe, mais ça veut pas dire que c'est la norme.
Non, mais vraiment.
Mais c'est vrai que en tant que joueur de jeux vidéo de longue date, mon expérience à moi, c'est que la musique dans le jeu vidéo est peut-être même plus importante que la musique de film, parce que bah, dans le jeu vidéo t'es pas que spectateur et du
merci.
Coup ça te procure non mais tu vois ça te procure ouais. des émotions et en fait ça va t'ancrer des souvenirs qui sont intimement liés à la musique. Moi la musique de Street of Rage de Yuzo Koshiro, ouais. je peux me rappeler exactement de ce que j'ai ressenti quand j'ai lancé le jeu, que j'ai mis la cartouche dans la console et que je l'ai allumé et que je suis resté vraiment bouche bée devant le truc, quoi, parce que j'avais jamais entendu ça de ma vie, tu vois. Donc c'est des trucs qui sont super importants et justement bah, des fois on se rend compte que De notre point de vue à nous, de grand public, on se dit bah ouais, ça c'est tellement important que ça doit être vraiment pris dans les early stages de la production du jeu, et en fait bah des fois ça arrive un petit peu last minute, comme ta Raphaël disait aussi, tu vois.
Ça m'amène à une question, ce que tu racontes, le fait que comment la musique va être exploitée d'une certaine manière, ce que va ressentir forcément le joueur aussi, c'est pas exactement la même chose que avec un média qui ne serait pas interactif entre guillemets.
Ouais,
bien sûr, évidemment,
et aussi ça implique des choses, j'imagine, pour le compositeur, pour les gens qui s'occupent de la musique, de proposer une musique qui est non linéaire d'une part, qui a aussi certainement une capacité à être mise en
Ubisoft. Non mais Ubisoft est très fort pour ça, parce que c'est les premiers qui ont mis la musique un peu contextuelle, où t'as des nappes qui se rajoutent en fonction de l'action, et puis quand ça part en sucette, c'est carrément ça, tu vois, ça... Alors,
racontez-nous ça, parce que ça c'est quand même une différence fondamentale avec l'industrie de la musique enregistrée classique. Qu'est-ce que peut-être Tarafa peut commencer, après Vladimir tu réagiras. Typiquement vous allez... bosser avec des gens, certains ont déjà fait du jeu vidéo, peut-être qu'ils savent faire, puis il y en a d'autres, c'est pas forcément le cas. C'est une expertise que vous devez leur amener aussi, leur dire, prenez en considération que c'est un jeu, on bosse pas de la même manière.
Ouais, tout à fait. Après, ça dépend du jeu, t'as des niveaux d'interactivité différents. Quand t'es sur un open world ou sur un beat'em up en rétro en 2D, c'est pas le même niveau de dynamisme de la musique. Donc, enfin, ce qu'on appelle la musique dynamique, c'est que tu vas avoir des couches, des layers qui vont se déclencher en fonction de la progression du joueur ou d'un événement qui intervient, etc. Donc, tout ça, c'est une complexité qui est variable en fonction du jeu, du type de jeu, et de l'ambition du projet, quoi.
Et c'est dans vos compétences d'accompagner des compositeurs qui auraient peut-être jamais fait ça, d'apprendre à maîtriser cet aspect-là.
Ouais, tout à fait. Mais après, nous, on n'a pas cette compétence technique en interne. Donc là, ça va dépendre. Parfois, tu as dans le studio un audio lead ou un music designer, ou en tout cas une personne qui va vraiment qui va bosser sur différents aspects audio, mais qui va notamment accompagner le compositeur ou la compositrice qui n'est pas toujours au fait de comment ça fonctionne, et qui va l'aider à au moins avoir le niveau d'abstraction suffisant pour composer en conséquence, et qui va ensuite s'occuper d'intégrer la musique dans le jeu, généralement en utilisant des outils, des c'est des logiciels, des middleware, il y a Fmod et Wise qui sont généralement utilisés. Bon, voilà.
On voit d'ailleurs en ouverture hein, quand ouais, tu lances le jeu.
Oui, oui, tout à fait. Oui, de la même manière qu'un Unreal. Ouais. Donc ça, souvent, c'est quand même souvent géré du côté du studio. Cette compétence est souvent du côté du studio, mais parfois non. Donc nous, on a quelques personnes autour de nous qu'on connaît à qui on peut faire appel au cas par cas. Et tu as des compositeurs généralement les compositeurs qui sont vraiment spécialisés en musique de jeux vidéo, et t'as des experts. Olivier Derivière, qui est le compositeur principal sur Street of Rage, il est très connu pour ça, il aime beaucoup en parler.
Et je dis une bêtise, on parle même parfois de musique procédurale dans le travail de...
Non,
je dis une bêtise.
Ça, c'est encore autre chose. Ouais.
Procédurale, c'est général aléatoirement.
Ouais.
Là, c'est plus une musique, surtout dans un open world.
Tu l'as déjà fait, non, il a pas... Ou je dis une bêtise.
De quoi ?
Je sais pas pourquoi j'associe à Olivier Derivière du procédural ou des
choses comme ça. Non. C'était peut-être dans le cadre d'un jeu qui avait de la...
C'est vrai que c'est les open world qui ont mis en place le fait d'avoir une musique dynamique, parce que dans un open world, des fois, tu te déplaces, il se passe pas grand-chose, ça sert à rien de t'envoyer une symphonie énervée, tu vois. Donc la musique va descendre, tu vas entendre le bruit de tes pas, et puis de temps en temps, tu auras trois petites notes qui vont venir appuyer l'action. Et puis quand tu vas te retrouver dans un combat, là, d'un seul coup, Zelda, par exemple, tu le vois vraiment, la musique remonte d'un coup.
Et de manière extrêmement naturelle, c'est pas genre une traque qui débarque d'un coup.
Ou tu vas te balader dans une rue et il y a quelqu'un qui va jouer d'un instrument traditionnel à l'intérieur du jeu, vraiment dans la narration. Et ça, c'est la diégétique. Alors ça, j'ai appris ça.
Dans The Wire.
Dans des calls, surtout.
Et les fidèles de DLT ont découvert ce terme avec l'épisode sur la musique de film avec Rafik Joumi et Olivier Desbrosses.
The Wire, tous les titres qu'on entend, il n'y en a aucun qui est plaqué sur le truc. C'est que des sons qui sont dans l'action, dans la série.
Comme dans The Shield, je pense.
D'ailleurs. Ouais, c'est aussi, The Shield. HBO.
J'aime bien toujours parler de The Shield quand on parle de The Wire.
chez Ubisoft, est-ce que pour la composition, on peut déléguer la supervision ou c'est vraiment toujours en interne ?
C'est en interne, c'est un choix, parce qu'on a des gens qui sont vraiment expérimentés et qui ont cette habitude-là. Moi, c'est vraiment... Là, je parle de mon expérience personnelle. On se complète extrêmement bien. Ce sont vraiment des gens qui sont spécialistes en musique, enfin vraiment qui vont dans musique à l'image. C'est pas le délire directeur artistique. J'aime pas. Non, ce sont des gens qui ont des compétences en musicologie pour la plupart et des compétences techniques. Manu, qui est notre superviseur musical à Paris, quand je l'appelle, il est tout le temps. Il a son petit matos chez lui, en train de faire des edits, de livrer des voilà. C'est vraiment, il n'y a pas juste ce petit côté un peu. Ah oui. Ils ont une oreille musicale extraordinaire et en plus des connaissances techniques qui font qu'ils peuvent faire des petits edits, bidouiller des trailers, etc. C'est plus que de la bidouille, je parle de manière un peu imagée, mais ce sont des gens qui ont vraiment les mains dans le cambouis. C'est pas juste de la...
Oui, ils restent pas sur un truc un peu théorique.
Ça demande une expérience et un savoir-faire extraordinaire parce qu'encore une fois, il y a la volonté du studio qui développe le jeu. Il y a un artiste de l'autre côté, un compositeur, voilà. Il faut pouvoir traduire et expliquer les choses parce que les gens de studio, ils n'ont pas forcément le jargon nécessaire pour parler musique. Ils vont te dire il faut un build-up, il faut que ça monte, il faut que ça retombe. Et là, au superviseur musical, de traduire ça à toutes les équipes artistiques.
Est-ce que tu peux nous raconter juste peut-être l'un des projets qui au niveau sonore, même je dirais de manière générale, a été parmi les plus ambitieux chez Ubisoft? On parlait, tu vois, du fait déjà qu'il y ait par exemple de l'interaction, etc. Ou même je pense à des moments... Tu
vois, une roquette.
je pense même, tu vois, à Assassin's Creed qui se passe souvent, enfin qui se passe dans le passé en général, il doit y avoir aussi la création d'un monde sonore diégétique, etc. Et que ça doit... impliquer un nombre de personnes et des compétences musicales assez impressionnantes, j'imagine. Ouais, parle-nous un peu d'un projet ambitieux comme ça, sonore.
Par exemple, Star Wars Outlaws.
Il y a Avatar, Frontier of Pandora, où il y a eu des expériences audio extraordinaires. C'est-à-dire que moi...
Vous avez produit un jeu à Avatar.
Oui, ouais, Frontier of Pandora, l'année dernière, qui est sorti l'année dernière. Je sais pas comment, c'est vraiment un point de vue extrêmement personnel, mais dès le premier post Instagram qui teasait 150 ans à l'avance sur l'arrivée de ce jeu, 5 secondes, ou le premier trailer, ou les premières fois qu'on nous a montré du gameplay, 5, 10, 15 secondes, on était dans l'univers d'Avatar. Je sais pas comment le dire, parce que Avatar, c'est pas une musique, c'est pas un, c'est pas Indiana Jones, c'est pas Star Wars, il n'y a pas, de thème comme ça. Mais je ne sais pas comment. Pinar Toprak, pour la citer, et Simon Landry, qui se sont occupés de le superviseur musical, ont réussi comme ça, en quelques secondes, à faire une expérience immersive extraordinaire. Donc Avatar, c'est un bon exemple. J'ai un autre chouchou qui s'appelle qui est The Crew Motorfest avec un américain qui s'appelle Blue Staly, qui lui vient plus de la scène à la fois métal, électro, qui tout de suite aussi propulse en quelques notes dans un univers là, de course de voiture, ambiance Hawaï, etc. Il y a vraiment un travail. Pour moi, la réussite, c'est quand vraiment, au bout de quelques secondes, on est projeté dans un univers, on se dit, j'y crois. Et là, voilà, c'est mes deux derniers.
Moi, je me rappelle que chez Ubi, Ghost Recon Wildlands, donc Ghost Recon, c'est une simulation militaire à la base, enfin un jeu militaire en tout cas, et Wildlands, ça se passe en Bolivie. Et là, pour le coup, je crois même que Ubi a vraiment été acclamé pour le travail qui a été fait sur la musique, parce que c'est que des petits riffs de guitare. Et qui s'appuie vraiment, avec l'open world est archi réussi, c'est-à-dire que c'est un jeu de 2013, tu joues en 2024, t'es toujours content d'y jouer, tu vois, parce que vraiment c'est une pure réussite. Et ouais, la musique un peu, guitare acoustique, machin, se mariait archi bien avec l'action, avec le décor, l'atmosphère, parce que c'était pas les mêmes riffs en fonction de s'il faisait jour, s'il faisait nuit, parce que t'as des cycles jour-nuit, t'as des tempêtes, il pleut, machin, etc. Et là, pour le coup, moi je me rappelle que ouais, quand moi j'y ai joué, j'ai fait ah ouais, vraiment, là, c'est vraiment le moment où tu te dis. Il se passe un truc, vraiment, la musique, elle colle vraiment à ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on ressent, et c'était vraiment très, très, très notable. C'est vraiment, tu vois, j'ai fait plein d'open world, celui-là, il m'a marqué vraiment, très, très fort. Ouais.
Dites-moi, Tarafa, Vladimir, chacun de votre côté, là, on se dit que ça prend de l'essor, tout ça, enfin que c'est de plus en plus mis en avant, qu'il y a une économie, etc., autour de tout ça. Mais les compositeurs, pour les musiciens qui nous écoutent, etc., est-ce que ça signifie aussi que globalement il y a plus de travail je parle vraiment de la création originale. Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent dans ce domaine? Est-ce que vous pouvez aller voir un quasi débutant, pas musicalement évidemment, mais est-ce que je veux dire qu'il n'a jamais travaillé pour le jeu vidéo alors, du côté de l'indépendant, Tarafa, et du côté du le gros.
Alors, y a plein de questions dans ta question, ouais. Parce que il y a. Alors, est-ce qu'il y a plus de travail, il y a beaucoup de projets en tout cas, mais il y a aussi plus de monde, du coup. Enfin, ce développement, il va avec une attractivité du secteur et donc c'est valable. Je le vois sur les professionnels qui bossent. Je vois que sur les sorties de BO, par exemple, depuis 2 ans, je vois les majors qui commencent à s'y intéresser, qui commencent à venir à essayer même de signer des petits projets indés sur lesquels on bosse. Enfin, des trucs où tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Bah, comme un peu de partout dans l'industrie musicale. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'un développement de cette industrie, ça va avec plus de monde qui essaye d'y rentrer, d'y travailler. Et donc, c'est valable aussi pour les compositeurs. C'est-à-dire que, oui, il y a plus de projets. Il y a plus de travail potentiellement. Je pense pas qu'il y ait plus d'argent pour autant, mais du coup, bah, il y a une envie. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi toute une nouvelle génération de compositeurs, compositrices qui ont grandi avec le jeu vidéo.
Qui ont les codes,
qui ont les codes, qui ont moins honte d'aimer le jeu vidéo que les générations précédentes et qui ont envie de rentrer là-dedans. Donc, bon, voilà, il y a un effet un petit peu d'entonnoir. Pour autant, il y a des opportunités, il y a clairement des choses à faire. Et puis, pour te répondre sur le côté donner la chance à des plus jeunes profils, oui, totalement. Après, ça dépend des projets, ça dépend des...
Parce que derrière cette question, il y a forcément l'action de comment vous identifiez les profils. Alors, en fonction du projet demandé, bien entendu, par l'éditeur, le développeur, c'est une évidence. Mais ce que je veux dire, c'est que votre moyen d'avoir un œil sur un compositeur, c'est soit parce qu'il a déjà travaillé pour le jeu vidéo, soit parce que c'est déjà un nom dans la musique enregistrée conventionnelle.
Bien sûr.
Il y a quand même une forme du prospecting, je sais pas comment dire ça, enfin de la
détection.
La détection qui peut se faire aussi.
Oui, bien sûr. Après, il faut réussir à faire passer la personne au studio qui aura toujours plus confiance, forcément.
Sur un truc établi, un artiste établi.
Établi ou en tout cas qui a déjà une expérience. Enfin, soit établi parce que c'est une personnalité de la musique, du commerce, ou parce que c'est un vrai professionnel du jeu vidéo qui a déjà bossé. Donc après, tu ajustes entre les budgets
et tout. Bon,
Mais nous, on a toujours une oreille quand même là-dessus. Et puis, c'est évident, c'est normal, on parle beaucoup de... tout à l'heure, vous aviez évoqué Hans Zimmer sur la BO2, je sais pas.
C'est sur un Call of Duty ou un truc comme ça, un gros truc de guerre.
Bon, c'est super. Moi, c'est pas ce qui va m'exciter le plus. Et pour moi, la prochaine étape est un des trucs qui nous anime un peu chez Kid Katana, c'est à l'inverse, c'est un média tellement important, le jeu vidéo, que demain, c'est aussi par là que tu vas découvrir des artistes, découvrir des nouvelles esthétiques musicales, des nouveaux genres. Donc en fait, la recherche, elle est plus là-dessus. Vous aviez reçu Rémi Gallego, The Algorithm, avec qui on a bossé, notamment sur la sortie du vinyle de The Last Spell. Et lui, quand il est arrivé sur The Last Spell, il amène un côté métal, électro, totalement en rupture avec le côté tactico, l'RPG du jeu. Et ça c'est pas nous, hein, c'est clairement un choix du studio de Ishtar Games.
C'est eux qui voulaient vraiment avoir cette opposition.
Nous, on est arrivé plus tard dans le projet. Ouais. Et ça marche trop bien. Et je pense que c'est pas mineur en fait dans le succès du jeu, dans l'affection que les joueurs ont pu avoir pour ce jeu et pour l'expérience qu'ils ont eue, parce que il y a un vrai parti pris, il y a un vrai truc qui.
Voilà. Je pense à un autre exemple qui commence à être un peu ancien, mais qui avait beaucoup marqué. C'était cette BO où on retrouvait du Danger, du Toxic Avenger,
Fury.
Etc. sur Fury.
Ouais.
Et j'ai l'impression que ça a été un jalon quand même non négligeable.
Carrément. Ouais. C'est G4F, une boîte française qui a bossé sur la musique du jeu et qui est allée chercher tout ce casting.
En fait, c'était étonnant d'un point de vue esthétique musical. C'est un truc qu'on se disait, tous ces artistes qui se retrouvent autour du jeu vidéo, ça avait... Ouais. Il y avait un truc étonnant.
Ouais, carrément.
Déjà, visuellement, même le jeu était étonnant aussi, donc ça marchait bien ensemble.
Ouais.
Chez Ubisoft, est-ce qu'on travaille avec plus de compositeurs de plus en plus ?
En tout cas, ce qui est fascinant et passionnant, et personnellement m'anime, c'est le fait de pouvoir avoir des entrants, des participants, des rencontres qui sont mais tellement différentes. Moi, ça fait 2 ans que j'y suis. On a collaboré avec l'artiste norvégienne Aurora. On a collaboré avec One Republic. On a collaboré avec Sam Smith. On a collaboré avec une artiste extraordinaire qui s'appelle Mentrix, qui a collaboré à la BO de Prince of Persia The Lost Crown, une artiste d'origine iranienne. On a collaboré avec Disney. Dans quel label actuellement on peut avoir des horizons aussi différents en aussi peu de temps. Sans compter les classiques, les Tzfai, tous ces gens qui sont spécialistes de la musique à l'image. Et puis la possibilité que ce soit d'aller collaborer avec Spinning Records et Tujamo, un DJ hollandais pour The Crew Motorfest, puis passer à un titre plus hip-hop pour un autre jeu, pour revenir à une collaboration ultra mainstream avec Sam Smith. Donc il y a vraiment... de plus en plus d'entrants, de plus en plus d'univers différents, et c'est ce qui est fascinant et ce qui permet justement.
Je me rappelle que tu nous avais parlé d'un projet autour de chants, de je ne sais plus, de chants marins, etc.
Improbable. Alors oui, mais c'est ce qui est Assassin's Creed Black Flag qui se passait donc dans un univers pirate. Ouais. Et
excuse-moi, le morceau était super viral d'ailleurs.
Non, Her Johnny, oui. Pourquoi tu me piques mon effet
pardon,
ok, ben voilà.
Non, mais on l'écoutera.
Non, mais ce qui était absolument hallucinant, c'est que ce jeu est sorti, je crois, il y a peut-être pas une bonne dizaine d'années. Donc, il y avait des chants marins du 16e, 17e, 18e siècle, dont un chant qui s'appelait Leave Her Johnny, un chant complètement traditionnel de l'époque, et pointe sur TikTok pendant le Covid 2021, phénomène viral sur des chants marins du 17e siècle. Jamais j'aurais pu m'imaginer TikTok, 3 minutes que je me retrouverais à travailler sur une stratégie autour de chants marins. On a refait avec un groupe qui à la base est un groupe de country qui s'appelle Home Free, qui est assez gros aux États-Unis, notamment sur la scène dans le spectacle vivant. Home Free, ils ont écrit une chanson pour Skull and Bones qui s'appelle Skull and Bones, un a cappella. Puis 2 jours après, j'étais avec Tujamo, une chanson Turn It Up, hyper dance floor. Et puis 4 jours après, on était sur One Republic et Michel Tamer, pure pop mainstream. Et cet été, j'écoutais les chansons de Wish de Disney pour pouvoir le long métrage, pour pouvoir justement préparer une saison de Disney dans Just Dance. Donc c'est le champ des possibles, il est inarrêtable.
Il est intéressant cet exemple, on peut écouter un extrait d'Oliver Johnny.
With pleasure.
Ça passe donc d'un jeu qui rend hommage à une esthétique ancienne. Et puis ensuite, de par le jeu, ensuite TikTok, parce qu'on connaît un TikTok qui remet des trucs au goût du jour. Ouais. Alors là, il y a double truc, tu vois, d'abord le jeu vidéo, puis ensuite TikTok, c'est étonnant. Bon, allez, on s'écoute ça.
I thought I heard the old man say, leave her, Johnny, leave her. Tomorrow ye will get your pay, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her.
Voilà, sur TikTok, en tendance entre Tayla et Aya Nakamura.
Probable, hein.
Ils font quoi, des chorés, c'est quoi le...
Non, c'était cette... Il y avait un TikToker qui s'appelait Nathan Evans qui avait repris une chanson qui s'appelle Wellerman, qui est une chanson du domaine public comme ça. Et puis du coup, ça a recréé une trend tant et si bien que Spotify a créé une playlist de 6 chantiers officiels. Et il y a le chemin inverse. Il y a le chemin inverse parce qu'on parle beaucoup d'artistes de la scène... mainstream ou du cinéma qui veulent aller dans le jeu vidéo, mais parfois la scène classique, enfin classique traditionnelle, fait aussi appel à des acteurs du jeu vidéo. Je vais reprendre l'exemple de Blue Staly que j'évoquais tout à l'heure en coup de cœur. Donc il a fait l'essentiel de la musique in-game de The Crew Motorfest. Et il m'avait fait savoir, quand je l'avais croisé par hasard dans les couloirs d'Ubisoft, où le Music Supervisor me l'avait présenté, qu'il était fan d'une... Alors, mec tatoué, métalleux, électro, mec de studio, qui vit à Los Angeles. Il me dit, voilà, il y a une artiste que j'adore, c'est Mylène Farmer. Ok. Il me dit, je suis fan. Bon. Eh ben, alors on va pas raconter toutes les pérégrinations, mais Blue Staly a remixé un titre de Mylène Farmer sur son dernier album de remix qui est sorti. Et c'est improbable, improbable que ces couloirs se créent, ces correspondances, etc. Comment ça se passerait dans un label traditionnel pour arriver de... Donc il y a des vraies correspondances dans les deux sens, et c'est important. De Brendan Angelides, qui fait la musique de 13 Reasons Why sur Netflix, qui débarque dans la BO d'Assassin's Creed Mirage, au chemin inverse d'un artiste...
Dans les deux sens, c'est vrai que c'est intéressant.
Une vidéo qui se retrouve...
On évoquait tout à l'heure la BO de Fury, moi je veux bien qu'on se mette un petit extrait parce qu'elle est incroyablement folle. Alors là, je retombe en plus sur les artistes, parce que j'avais cité Toxic Avenger, Danger, mais là je vois qu'il y a du Lorne aussi dessus, qu'il y a du Scuttle, enfin c'est complètement incroyable. Je ne sais plus un morceau qui était Carpenter Brut aussi. Ça vous parle, vous, cette BO, d'un morceau spécifiquement sur la BO que vous connaissez bien ou,
Je ne me rappelle pas le titre, mais il y a un morceau de Toxic Avenger.
Ouais.
Qui est et d'ailleurs c'est pas mal aussi d'en parler, parce que je sais que ce morceau a ensuite été, donc qui a été créé pour cette BO, il a ensuite été resynchronisé dans des très grosses pubs. J'ai pas envie de dire de bêtises,
est-ce
mais
que
peut-être
c'est
des trucs genre
Right,
Google
ça
ou...
te parle, c'est celui qui a le plus d'écoute,
c'est celui qui a le plus d'écoute.
Ah, il y a aussi My Only Chance.
Nous on a eu la BO de Assassin's Creed Odyssey dans Salade Grecque, la suite de L'Auberge Espagnole, série, l'adaptation en série qui a été faite.
La BO de jeu qui se retrouve synchro.
Oui, tout à fait, de plus en plus. On a eu un titre de Prince of Persia qui s'est retrouvé dans un match de baseball, si je ne m'abuse, à Houston. Donc vraiment, il y a de plus en plus de correspondances.
Okay. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on s'écoute. Il nous semble que c'est le morceau My Only Chance de The Toxic Avenger. Dans tous les cas, c'est une bonne idée d'écouter The Toxic Avenger, qu'on avait reçu là, dans ce podcast aussi.
J'étais pas là.
Effectivement.
Mais j'apprécie quand même la personne que je connais.
Allez, let's go. Aller écouter toute la BO de Fury, c'est
aller jouer au jeu,
vraiment
même.
Très bien. Et c'est vrai, c'est une bonne idée, ça.
Tant qu'à faire.
Bah oui. Je vous propose de passer, avant de passer pardon, à la troisième partie, qui conclura ensuite ce podcast, parler quand même rapidement, parce qu'on a parlé beaucoup de production originale, mais pas trop de licensing.
Ça te fascine, ça?
C'est forcément intéressant aussi.
Oui.
Est-ce que c'est réservé quand même à des gens qui vont avoir les moyens? Par exemple, c'est Ubisoft va pouvoir se le permettre, ou est-ce que Kid Katana, vous pouvez aussi aller choper des morceaux, y compris très populaires, etc. Ça coûte cher?
Alors, je vais te répondre. Ouais. Pardon, je me permets. Est-ce qu'une montre, c'est réservé à une élite?
Ça dépend quel type de montre.
Ben voilà. Voilà.
Donc en fait, c'est des prix
ça
différents.
Ça dépend le prix que tu as envie de mettre, ou le budget que tu veux mettre dans ta montre.
Bien sûr.
Et ça va dépendre de la popularité du morceau?
Il y a tellement de facteurs.
Ouais. Le type d'ayant droit.
Enfin, faut que les ayants droit, ils sont aussi en phase avec le projet, j'imagine.
Oui. Alors ça, je
même si
pas.
Tu leur mets un gros chèque, mais que le jeu est.
Bien sûr. Ouais. Bah ouais, comme on disait, il y en a certains qui voudront jamais, de toute manière, que tu synchronises leur titre. Donc.
Parfois, il y a des surprises. Parfois, il y a des surprises. Franchement, on aurait fait ce podcast 3 mois plus tard, ou réinvitez-moi. Je vous aurais parlé de ma plus grosse fierté. Mais là, c'est trop tôt.
Je sais de quel jeu on va parler, mais d'accord.
Lequel?
Je sais pas.
T'as plus le droit d'en parler.
Non, mais moi, je vais prendre un exemple passé, là, sur la dernière édition de Just Dance. Jane est une énorme gameuse. Je ne le savais pas. Mm. C'est sa manageuse qui me l'a dit. Et évidemment, on voulait Makeba.
Et oui, qui est un de ces morceaux qui a bien marché, effectivement.
Voilà, et on a eu la réponse, je pense, en 1h30. Mmh. Enfin, bien marché, ça a fait le milliard de streams. Mmh. Donc, voilà. Donc, en fait, je reprends aussi l'exemple de One Republic dont je parlais tout à l'heure. C'est né d'une conversation avec le patron d'export de Underscope Records qui me disait, mais One Republic, ils sont fous de Assassin's Creed. Donc, et pour la petite anecdote... Avant même d'avoir fait le brief officiel par le music supervisor sur le morceau, ils avaient déjà écrit un titre qui s'appelait Mirage. Ils nous ont envoyé la démo, mais en mode random. J'étais devant mon ordinateur jeudi 19h45 et là d'un coup il y a ça pop un MP3. Voilà, vous en pensez quoi? Et ils avaient samplé le main theme du projet. Ils avaient vraiment complètement orné, enfin, ils avaient vraiment illustré musicalement le jeu. Ça a l'air que ça correspondait. Et ils ont été à l'écoute, bien évidemment, des modifications qui ont été faites par la suite par les équipes créatives d'Ubisoft Music. Mais il n'y a pas qu'une histoire. Bien sûr que la musique n'est pas gratuite.
On rejoint un peu ce que disait Tarafa. C'est-à-dire que là, on arrive vraiment à un moment où les artistes ont cette culture du jeu.
Bien sûr. De Jul à One Republic.
Et c'est pareil dans la sphère indépendante. Alors, indépendante, ça peut être très large. Hein. T'as des très grosses boîtes qui sont plus petites qu'Ubisoft, mais qui sont quand même des grosses machines. Mais donc dans toutes les recherches musicales et les discussions qu'on peut avoir, pareil, je peux pas en dire énormément, mais il y a des très gros artistes de la sphère mainstream internationale. Tu les contactes pour des projets, ils sont chauds, ils veulent en savoir plus, ils veulent participer, ils connaissent parfois les franchises, donc ça fait partie de leur culture et de leurs inspirations. Et
question peut-être innocente, mais ça nous permettra de basculer enfin sur cette troisième partie, et sur cette idée qu'il y a à la fois l'intérêt évidemment pour le jeu, mais peut-être aussi pour l'artiste. Est-ce que justement, un artiste plus émergent se dit que c'est aussi une manière pour lui de se réactualiser, d'apparaître dans un jeu, et il voit son intérêt personnel au-delà du plaisir d'être dans un jeu vidéo, parce qu'il aime le jeu vidéo.
C'est une carte de visite de ouf.
Et puis après, tu parles de d'artistes qui veulent se réactualiser, ou de petits artistes ou de moyens artistes, mais tu regardes même Fortnite et Eminem, la performance d'Eminem dans Fortnite, c'était quelque chose comme 10 millions le jour 1, ça a augmenté, ses streams, son inclusion l'inclusion de ses morceaux dans les playlists, les vues sur YouTube, les abonnés.
Fortnite en plus.
Je parle d'une machine.
Et ça s'inscrivait dans une stratégie globale du label de remettre en avant l'héritage musical d'Eminem, en accord avec lui bien évidemment, mais il y avait toute une stratégie. Je crois que c'était l'anniversaire d'un album, je ne saurais plus dire lequel, mais il y avait une volonté de remettre en avant ce projet.
Parlons-en, puisqu'on passe à cette troisième partie, un peu sur cette nouvelle économie qui naît avec ces croisements entre musique et jeux vidéo. Ça devient des espaces de promotion pour les artistes, les jeux. Alors, t'évoquais Fortnite, on le rappelle peut-être un peu pour ceux qui connaissent pas très bien. Chaque PUBG fait des trucs comme ça aussi.
Non, mais Fortnite, c'est Tu sais, il y a eu toujours cette recherche de la licorne, là, du métavers, tu sais, où tout le monde a injecté des milliards.
C'est un univers virtuel dans lequel tu plonges avec un avatar.
Tu peux te retrouver avec tes amis, etc. Mais en fait, Fortnite, c'est le métavers réel, quoi. C'est-à-dire que tous les gosses se retrouvent là-bas.
C'est un des jeux les plus joués dans le monde, Fortnite. Ouais, c'est une espèce de battle royale où ils s'attaquent entre eux.
Alors, à la base, c'était pas ça, mais la version battle royale de Fortnite, c'est le truc qui a permis au jeu de survivre, parce que à la base, c'était un jeu de construction shoot. Et ça marchait pas très bien. Ils ont fait le Battle Royale à l'époque où tout le monde en faisait, donc tu citais PUBG notamment. Ça a pété, mais en fait, Fortnite, c'est tellement devenu un endroit où en fait les gamins rentrent de l'école, se pluguent sur Fortnite, et des fois ils restent juste dans le lobby, ils discutent avec leurs potes, ils sont même pas en train de jouer.
Ça devient un univers parallèle,
un réseau social.
En fait, ils traînent dans le truc, c'est juste un réseau social avec une composante de jeu, et du coup, il y a beaucoup de grosses boîtes qui ont bien compris le truc. Et on a vu par exemple Travis Scott qui a fait un concert dans Fortnite.
Ces jeux vidéo en ligne accueillent des concerts d'artistes.
Il
y a eu Gaga, il y a eu Ariana Grande.
Travis Scott, Eminem,
vraiment PUBG, Fortnite, il y avait Blackpink, gros groupe de K-pop.
Comment dire, le jeu vidéo aujourd'hui, c'est le loisir numéro un de la Gen Z, juste derrière la musique, en numéro deux. Il y a encore quelques années...
Gen Z, ce qu'on appelle Gen Z, c'est les...
C'est les gens nés au 21e siècle. Voilà, fin du 20e.
Ceux qui sont nés avec Internet.
Ouais. Voilà, ceux qui sont nés avec Internet, exactement. Ouais. C'est la génération après les millennials. Il y a encore 10-15 ans, pour promouvoir un titre, on était tous devant les MTV Awards, devant les Energy Music Awards, devant ce genre d'émissions. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait les mêmes audiences en télévision. C'est un média qui est délaissé par les plus jeunes au profit des plateformes de VOD, au profit des réseaux sociaux, et au profit, bien évidemment, du jeu vidéo. Donc, si on veut toucher une audience plus jeune, bien sûr que ces artistes-là ont tout intérêt à aller s'illustrer dans le jeu vidéo. Maintenant, il faut pas. C'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution, parce qu'il faut pas faire pour faire. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut que ce soit intelligent et pas téléguidé.
Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est apparaître dans un jeu vidéo, parce qu'en inversant un peu le truc, jusque-là on disait, ok, les compositeurs, ce qu'ils peuvent amener à un jeu, etc., qui sont essentiels, mais l'inverse est tout aussi valable, vraiment, c'est que ça peut être des plateformes, on peut propulser les artistes avec du jeu vidéo.
Je le souhaite de tout mon cœur, et je l'espère qu'un jour ce sera possible, effectivement, de pouvoir vraiment, pourquoi pas, dans un futur proche, découvrir le nouveau single d'un artiste directement à l'intérieur d'un jeu vidéo.
C'est un truc toi aussi que tu peux observer, ou tu dis c'est la tendance.
En tout cas, on aspire à ce que ça devienne une vraie réalité. On sent que la tendance est là, mais enfin voilà, nous ça fait partie de ce qui nous anime de développer ce terrain-là, clairement quoi.
Et est-ce qu'on peut dire aussi que, toujours d'un point de vue plus économique là dans cette troisième partie, que le fait de cibler aussi des gamers, c'est pas exactement les mêmes consommateurs, tu t'évoquais cette génération plus en... mais je prends un exemple, vous me dites ce que vous en pensez, mais je crois que c'était en 2021, la plateforme Twitch avait commandé une étude auprès de la boîte Media, pour Media Research. Et ils avaient remarqué que globalement les gamers par exemple achetaient trois fois plus de merchandising pour soutenir les artistes qu'ils aimaient que les autres, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres, il y a plein d'autres choses, mais où on voit que ça peut être des power users, des power consumers, je sais pas comment le dire, etc., mais que le gamer peut avoir un intérêt aussi pour l'artiste musical.
Après, attention,
en termes de ressources quoi.
Attention Salman, ne faisons pas cette erreur de croire que le gamer ou les gamers sont une communauté.
Les mots de la bouche.
En fait, tout le monde joue. Tout le monde est gamer, finalement.
C'est vrai. En fait, je parlais vraiment des gens qui sont très investis dans la pratique du jeu vidéo, quoi.
Peut-être. Ouais. J'avoue que j'ai pas forcément suffisamment de renseignements chiffrés là-dessus.
Non, c'est quoi, dans le gaming, il y a la notion, tu vois, de pack collector, où tu sais qu'il y a des gens qui vont être intéressés par ça. C'est des goodies en plus. C'est des fois des goodies même pas physiques. C'est des goodies numériques qui sont dans le jeu, des tenues, des armes supplémentaires, etc.
Des skins. Et
ça te parle,
moi, ça me parle particulièrement parce que je le vois. Donc, il y a tout un pan de notre activité qui est l'exploitation des BO, la vente de soundtrack en stream et en physique et en téléchargement. Et donc, je le vois pour avoir passé énormément de temps chez Idol à bosser avec tout plein de types d'artistes, de catalogues, de labels. Je parle sur une BO qualitative qui marche bien, d'un jeu qui est bon. la proportion de vente et de download, enfin s'il vous plaît, on est en 2024, hein, ça fait plus téléchargement. Ouais. Je pense qu'il y a une notion aussi de propriété qui est hyper importante. Mmh. Et je vois des niveaux de téléchargement qui sont, enfin, sur iTunes où je savais même pas si c'était encore actif. Ou tu vois, c'est quoi ça sur le relevé, quoi.
C'est spécifique à cette communauté. Enfin, en tout cas, ça se voit. Je pense les gens investis dans le.
Ouais, ça se voit particulièrement par rapport à des genres plus traditionnel, plus grand public. Mais je pense que c'est valable sur d'autres genres dits de niche, où tu vas avoir des communautés sur Bandcamp qui vont vachement aller soutenir des artistes, télécharger. Donc je pense que c'est similaire. Mais en tout cas, il y a un engagement et où ça bénéficie aussi aux compositeurs, compositrices, aux ventes de la BO, de par des packs collector, des bundles, mais aussi des achats de vinyle, du stream, du téléchargement.
Ce qui est assez logique, parce que comme je le disais tout à l'heure, le jeu vidéo, c'est une expérience. Et en fait, une fois que t'as fini le jeu,
tu veux la continuer,
tu veux la prolonger en fait.
Et tu passes généralement plus de temps.
Et
c'est l'expérience, c'est généralement, je l'espère, plus longue que quand tu vas juste regarder un film au cinéma. Donc, t'as le temps d'être imprégné, d'être impacté.
Bien sûr,
t'es encore dans ton
interaction
jeu quand tu vas au taf et que tu veux ou à l'école et que tu veux écouter, continuer à écouter et à être dans l'ambiance.
Tu voulais réagir, Vlad?
À peu près pour rebondir sur les deux choses. D'abord, cette manière de vouloir s'approprier ou de vouloir aller plus loin dans la consommation, dans la fanatitude vis-à-vis d'un jeu, c'est se traduit aussi dans la musique où on demande de plus en plus aux artistes de communiquer directement avec leur public via les réseaux sociaux, de se créer une audience, de pouvoir avoir directement des interactions qui soient plus forcément à travers les médias pour pouvoir justement fidéliser des gens. Un artiste aujourd'hui qui n'a pas réussi à fédérer une communauté, c'est très compliqué pour lui. Donc c'est exactement le même phénomène. Et vraiment rappuyer sur ce qui a été dit là il y a un moment, le gamer, c'est plus comme on voyait, on va dire, il y a 20 ans, 25 ans, un gars qui écoutait du hip-hop, c'était un mec en baggy, casquette à l'envers, t-shirt XXL. On reconnaissait, ou un mec qui écoutait du métal, c'était un mec avec un t-shirt noir, cheveux longs. Aujourd'hui, tout le monde écoute du hip-hop. Il y a plein de gens, on ne s'imaginerait même pas. Il y a des mecs de 50 piges aujourd'hui qui ont grandi avec NTM et IAM. Donc, il n'y a plus cette stigmatisation qu'il y avait il y a quelques années. C'est exactement pareil dans le gaming ou dans les représentations des séries ou des dessins ou des série d'animation des années 90, le gamer c'était un geek, il était toujours un peu en train de dans son canapé, à passer sa vie sur un ordinateur. Aujourd'hui, on serait surpris de savoir justement de voir qui est sur son téléphone dans le métro en train de jouer à un petit jeu mobile ou qui va rentrer chez lui pour se faire jouer à Assassin's Creed ou à d'autres jeux. D'ailleurs, c'est une communauté ultra large.
C'est vrai, quand j'avais dit les gamers de manière générale, en fait, j'excluais un peu les casual, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens qui ont ce petit loisir un peu tous les jours avec leur téléphone.
Ce qui est marrant, c'est qu'ils s'excluent d'eux-mêmes des fois. C'est-à-dire que moi, souvent, je tombe sur des gens qui me disent non, mais moi, je joue pas trop, alors qu'en fait, ils ont 1200 heures sur Clash Royale.
Ça, c'est vrai,
je fais attention. Je fais des pauses numériques. Ouais, t'as 4 heures de plus que la semaine dernière.
Il y a un truc, là, parce qu'il faut qu'on en parle absolument de ça. Tu parlais de BO, Tarafa, de vinyle qui sortent. J'ai l'impression, avec mon regard extérieur, que je vois de plus en plus de BO de jeux, à la fois en stream et surtout en vinyle, etc. J'ai même appris, en préparant cette émission, il faut que vous m'en parliez, que, en fait, tu disais Ubisoft est un label. Oui. Et en fait, c'est un truc courant. C'est-à-dire que Rockstar a son propre label de musique aussi.
Bandai Namco
est aussi Riot. Un label de musique.
Riot Games.
Et j'ai l'impression quand même qu'il y a une tendance un peu nouvelle aussi. Ça s'est lancé récemment, certains des labels dont j'ai parlé, par exemple.
Oui, il y a une vraie tendance, clairement. Enfin, après, je pense qu'il y a beaucoup de ces boîtes qui avaient déjà cette activité depuis longtemps.
Et qui l'ont formalisée, en fait.
Exactement, et qui sont mises vraiment à la marketer, à la mettre en avant, parce que y a un peu, c'est un peu la mode de la musique de jeux vidéo. Enfin, voilà. Et donc, les boîtes en essayer de surfer là-dessus et de un peu mieux présenter leur offre. Mais je pense que dans les grosses boîtes, Ubisoft était un peu en avance sur la façon de présenter les choses.
Ça date quand même, ça a presque 20 ans, Ubisoft Music. Mais...
Ah, quand même.
Oui, les activités se sont développées, déployées au fur et à mesure. Ça se voit aussi, alors ce que tu dis est totalement vrai, et je pense que c'est j'espère, voué à se développer. Mais il y a aussi au niveau des plateformes de streaming musique où on voit de plus en plus de playlists qui s'appellent Top Gaming Track, Video Game Soundtrack, où il y a vraiment des correspondances et où on n'a plus, ou en tout cas de moins en moins, cette vision un peu nerd du gars qui écoute, entre guillemets, la vision qu'on avait, encore une fois, quand c'était des gars qui commandaient leurs CD par correspondance à des fan clubs japonais pour obtenir de la musique de Sega. Ce temps-là, il est révolu. Aujourd'hui, on est sur beaucoup plus de...
C'était quoi? Non, c'était un kiff. Je veux dire, justement, Sega fait vraiment partie de ces éditeurs qui ont toujours mis, donc on parlait de Yuzo Koshiro avec Street of Rage, mais Sega, ils ont toujours mis la musique très en avant sur leur production, sur Outrun, sur Hang-On, sur tous leurs titres iconiques,
Sonic,
en fait.
Sonic,
ouais, aussi. Il y avait, d'ailleurs, Michael Jackson.
Hey, oui,
qui a travaillé en soum-soum.
C'est pas une légende urbaine, ça, c'est vraiment...
Ouais, Sonic 3, ça a été très longtemps une légende urbaine. Je connais pas bien l'histoire, je sais juste que ça s'est officialisé il y a quelques temps, enfin, ça a été révélé que oui, effectivement.
Ah, vraiment, bossé dessus.
Ouais.
Mais le vrai jeu sur Michael Jackson, il est sorti chez Ubisoft.
Moonwalker.
Il y a un jeu Michael Jackson qui est sorti chez Ubisoft.
Moonwalker, moi j'y ai joué.
Ouais.
Le jeu Mega Drive.
Absolument.
Il était aussi sur Master System et il était éclaté.
Mais c'était pas le même jeu.
Non, il était éclaté. Avec la pièce là, tu vois, il jette la pièce comme ça dans le jeu.
C'était incroyable. C'était toute l'esthétique Smooth Criminal.
Exactement.
C'était dingue le jeu.
Et il se transforme en voiture à la fin.
Cette histoire aussi de développeurs, d'éditeurs de jeux qui se transforment en labels musicaux d'une certaine manière, pour le dire, je grossis le trait, c'est aussi parce que justement, on sait qu'il y a eu un engouement par exemple pour le vinyle, etc. Et que justement, c'est ce Rafa, tu dois le voir, toi, c'est s'organiser de façon à pouvoir presser plus facilement du vinyle, plus facilement le vendre, etc. Et créer aussi une nouvelle économie pour l'éditeur de jeu en tant que label musical et pouvoir réinjecter ça dans du jeu vidéo, j'imagine.
Oui, après, ça reste au niveau d'un éditeur de jeu, quel qu'il soit, ça reste marginal quand même. Okay. T'as une grosse composante fan service. Ça c'est évident et c'est important. Et puis voilà, c'est aussi, certes, la musique fait partie de l'œuvre collective qu'est le jeu vidéo, mais c'est aussi une œuvre à part entière. Ou en tout cas, on essaye de travailler pour que
ça vit aussi en elle-même.
Pour que ça ait un sens, une existence propre en tant qu'album. Donc oui, ça peut créer des petits ou des gros revenus, mais de façon générale, t'as quand même une corrélation avec les ventes du jeu,
il y a pas de jeu qui fait un bid et avec une BO qui se vend de ouf, ça n'existe pas.
Non.
Parfois ça performe plus ou moins bien.
Bah on citait Fury, j'ai l'impression que sa BO a presque plus été commentée que le jeu en lui-même. J'ai eu ce sentiment, mais je connais pas extrêmement bien non plus.
C'est quand même très lié au succès du jeu.
Ouais, je pense qu'une très bonne BO d'un jeu nul aura du mal à sortir du lot.
Tous les jeux Amiga, c'était ça. Hein. Les jeux étaient excellents, les jeux étaient éclatés. Bon, bah voilà.
On se rappelle de rien, du coup.
Bah voilà.
donc oui, certes, ça peut rembourser. Enfin, les ventes de la BO peuvent rembourser un Spotlight Tracks ou une opération un peu de marketing sur la musique. Mais voilà, ça va rester dans ce cadre-là. Ça va pas. C'est pas ça qui va
révolutionner.
Non.
Et d'ailleurs, petite question sur les ventes de la BO. Quand on parle de ventes physiques, est-ce que vous observez que c'est plus le vinyle ou le CD qui part? Est-ce que d'ailleurs vous faites que du vinyle et plus du CD?
Ça dépend des projets.
Parce que le CD, j'ai l'impression que ça n'a pas...
Les ventes remontent un peu, de manière générale.
Alors ça dépend. La plupart du temps, quand on fait du physique, on fait que du vinyle. Mm-hmm. C'est assez rare qu'on fasse du CD. On l'a fait sur TMNT et ça s'est bien vendu. C'est bien vendu, et notamment au Japon, parce que...
c'est encore un gros marché physique.
Voilà, et c'est un gros marché CD.
Oui.
Par rapport
au vinyle.
Je sais que parmi...
sinon, c'est du vinyle, essentiellement.
Ouais. Je sais que parmi les audiophiles, là on sort du débat jeux vidéo, mais le CD reste important. Je pense à quelqu'un comme Sofian Fanen, par exemple, qui aime beaucoup le CD aujourd'hui, parce qu'il trouve, en fait, comme beaucoup d'amoureux de musique, que le vinyle, le marché est complètement délirant, que ça l'énerve.
Oui.
Et alors que la qualité sonore du CD est quand même excellente, qu'on en trouve facilement finalement que beaucoup de choses ont été produites en CD et qu'en fait, en tant que collectionneur et amateur de musique qui souhaite posséder la musique, le CD est quand même un super compromis aujourd'hui.
Oui.
Et alors, c'est de la niche. Hein. Mais il y a quand même ce truc.
C'est
que
surtout
je vois
beaucoup
de
plastique. Donc nous, c'est vrai qu'on a une politique un petit peu.
Après, le vinyle peut avoir des aspects politiques.
C'est vrai.
Aussi,
ah oui, c'est vinyle. Vrai. Mais justement, on fait déjà des vinyles. On va pas en plus qu'on. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on. Mais je suis rejoint Tarafa. La production de vinyle, c'est vraiment quelque chose. Alors, on est super fiers quand on réussit, quand on fait une collection comme justement pour les 15 ans d'Assassin avec l'intégralité des BO, ce sont de beaux objets qui font plaisir et qui, ça rejoint ce que tu dis, des gens qui veulent se faire plaisir, qui aiment une franchise et qui collectionnent. C'est super bien, mais ça reste quand même des revenus à la marge, soyons très honnêtes. C'est le chemin classique des labels. Aujourd'hui, 90% du marché est digital, on va pas se mentir.
En revanche, donc ça reste à la marge, en tout cas pour l'éditeur. Mais quand le compositeur a une part sur les revenus de la BO, la vie de la BO de façon générale, pas particulièrement du vinyle ou qui va être plus un peu pour l'exposition, ça peut être un revenu complémentaire important pour les compositeurs qui très souvent avec nous ont un pourcentage sur les ventes de la BO.
C'était la question que j'allais poser, c'est justement
sur les droits notamment
en termes de contrat pour les artistes qui participent. Effectivement, est-ce que il y a une jurisprudence qui octroie un pourcentage sur les ventes ou alors une commande?
Je connais pas la jurisprudence de façon générale, mais nous la façon dont on est organisé et ce qu'on applique, comme on est très proche en plus des compos avec qui on va bosser sur les jeux, il y a toujours une partie plutôt importante du revenu de la BO qui part
sur les ventes.
Vladimir, sur la question justement des droits, les pratiques du monde de jeux vidéo sont globalement les mêmes que celles de l'industrie conventionnelle musicale, de la musique?
Dans l'ensemble, oui. Parce que, comme vous venez de l'exprimer, on sort un album sur les plateformes digitales, le compositeur,
le producteur,
producteur, éditeur, le même principe. Okay. Après, ce sont des industries qui ont tellement évolué que tout est toujours en perpétuel mouvement. Et là où, encore une fois, je le disais tout à l'heure, des accords globaux existent dans le cinéma, dans la télévision, dans ce contexte, dans cet écosystème du gaming. Eh bien, nous sommes en train de les créer, comme YouTube a créé ses guidelines il y a quelques années. Enfin, c'est pas créé, a trouvé un accord, comme Spotify a trouvé, comme Netflix a trouvé. Je reviens sur cette anecdote dont on parlait au début sur Tal avec Just Dance. Donc, il y avait mon ami qui travaillait à la synchro chez Warner, et il y avait côté édition, donc côté gestion des ayants droit, un garçon, Simon, pour ne pas le citer, qui aujourd'hui travaille à la SACEM et on fait régulièrement des workshops avec la SACEM pour pouvoir trouver des deals cadres autour des jeux. On se voit, on discute, on réfléchit ensemble. C'est l'avantage aussi de venir de l'industrie, c'est qu'on se connaît, donc on n'est pas en train de faire connaissance, d'être poli, etc. On parle vrai. Tout ça, c'est en création. Et je reviens à cette image, il y a 15 ans, il n'y avait pas 150 000 titres par jour qui sortaient sur Spotify et il manquait la moitié des clips sur YouTube. Il faut laisser le temps au temps. Oui. Mais chaque jour nous rapproche de quelque chose d'un peu plus pertinent pour les deux parties.
Il y a une question, parce que tout ne doit pas être non plus magnifique dans le monde du jeu vidéo, c'est qu'on sait que dans l'industrie musicale, il y a une tendance quand même globalement à la disparition de certains contrats historiques pour les artistes, pour aller de plus en plus vers un peu plus d'indépendance et de maîtrise aussi des revenus qu'on va percevoir.
Des producteurs,
des artistes, non du côté des artistes.
Ah oui, bien sûr.
Qu'ils viennent
oui,
leurs propres producteurs, etc. Globalement.
Ouais. Tout à fait.
Parce qu'on se dit par contre que dans le jeu vidéo, comme c'est une œuvre collective, vous l'avez rappelé tous les deux, cette tendance va être plus difficile à suivre.
Oui, clairement.
Est-ce que c'est si intéressant à ce moment-là pour les musiciens, d'un point de vue rémunérateur, de dire je vais pas toucher énormément de revenus par rapport au taf que ça m'a demandé, quoi.
C'est quand même différent parce que quand un compo va se mettre à bosser sur un jeu, il est payé. Dans tous les cas, certes, il sera pas producteur de son album, puisque évidemment c'est le producteur du jeu. Mais en revanche, il sera déjà payé, il aura ses cachets pour la création, quoi qu'il arrive, et quel que soit et quel que soit le succès du jeu. Mmh. Alors que quand t'es un artiste autoproduit, et enfin, ça veut dire que c'est toi ou les gens
qui croient en toi. Tu travailles gratuitement et c'est voilà. La vente que tu. C'est,
tu travailles gratuitement, voire même tu payes les gens. Ouais. tu vois, tes mix, ton mastering, ton machin, ton marketing,
ta promo.
Avec des résultats incertains.
On s'y retrouve au final, c'est réparti différemment, mais on s'y retrouve.
Enfin, ça dépend du succès de ta carrière, de ta carrière d'artiste en propre, mais tu peux t'y retrouver. Enfin, en tout cas, c'est une économie intéressante. Après, certes, tu pourras pas dire, je m'autoproduis, je suis mon propre producteur, je suis mon propre patron. Non, parce que tu vas travailler.
C'est un travail de commande.
Au service d'une boîte, d'une franchise, ou tu vois, quand tu bosses avec ce qu'on appelle des IP, des franchises, tu te retrouves aussi avec les propriétaires de la franchise qui ont aussi leur mot à dire sur ce que tu fais. Donc oui, tu vas travailler avec toute une équipe. Mais tu as une sécurité immédiate à partir du moment où tu es, entre guillemets, embauché pour faire le travail. Donc c'est différent.
J'avais une question complémentaire là-dessus. C'est les artistes que vous prenez pour faire des BO, est-ce que dans les discussions, c'est garanti déjà ? Enfin, la question, c'est est-ce que chaque jeu vidéo... Donc on sait que chaque jeu vidéo, il y a de la musique dedans. Mm-hmm. Mais est-ce que chaque musique de jeu vidéo se transforme en BO, potentiellement trouvable, vendable Et donc dans ce cas-là, est-ce que l'artiste qui vient, quand on lui dit « tu vas bosser pour la musique de mon jeu », et d'ailleurs, on l'éditera en vinyle peut-être, machin, etc. Est-ce que ça rentre dans le deal, ça de...
La plupart du temps, nous essayons au moins de faire une sortie digitale.
Donc chez Ubisoft, d'accord. C'est quasiment tout le
donc
temps.
Au moins digital.
Ok.
Après, tout n'est pas forcément quand il y a 3 minutes de musique dans un jeu mobile, on va pas. Voilà.
Non, je parle vraiment pour les
oui,
les jeux,
on
les
essaye de, on essaye, on le fait, on s'y tient de sortir la BO. Mais encore une fois, comme l'a dit Tarafa, c'est difficile de comparer un artiste front artiste qui va être son propre producteur et qui va vivre des revenus de son album au travail d'un artiste qui, cette fois-ci, va se mettre au service d'une œuvre collective, donc va être payé pour faire amener sa pierre musicale à l'édifice plus global qu'est le jeu. Mmh. Et dans un second usage, il va y avoir
les streams,
etc. Mmh. Si je te prends un exemple, c'est un peu comme si je te disais Jane, elle va faire un album, elle va sortir Makeba en single. Et dans un second usage, ça peut éventuellement se retrouver en synchro dans une pub ou dans un film. C'est pas le premier usage. C'est important de le signaler. C'est un second usage de.
Non, bien sûr, mais imagine, tu vois, on prend le cas de Toxic Avenger sur Fury. Ouais. On imagine le gars, on lui dit, fais un son pour illustrer, pour sonoriser le jeu. Voilà, on aimerait un morceau, machin. Il le fait. Et puis là, on se rend compte que sur Spotify, le truc, il est streamé à 32 millions de trucs. Et il se dit, est-ce que je touche quelque chose dessus ou est-ce
si,
que
si,
il y aura des royalties
si, bien sûr.
Dans tous les cas, j'imagine qu'il a des royalties sur le morceau. Donc finalement, c'est un bonus.
Ouais, il s'y retrouve. Ouais.
Okay. Et il s'y retrouve sûrement, vu les résultats, encore plus que ce qu'il a été payé à la base juste pour faire la création. Mais là, ça dépend. Alors évidemment, nous, c'est pareil. On essaye de sortir les BO au moins en digital et puis après en vinyle quand ça a du sens, du potentiel
c'est
commercial.
C'est même un brief parfois du côté éditeur de se dire il faut qu'on le sorte en vinyle et tout.
Ouais, c'est souvent. Il y a plein de projets sur lesquels on n'a pas. Enfin, quand je vous disais, on fait un peu à la carte, il y a plein de projets sur lesquels on arrive que pour faire la sortie digitale et vinyle.
À la manière d'un distributeur.
Ouais, c'est ça.
Mais on peut dire là que l'immense majorité des jeux qui sortent maintenant auront systématiquement quasiment leur BO disponible au moins en digital, ça c'est sûr. C'est-à-dire que c'est pas un truc où on se dit c'est du jeu
en
pour
tout cas,
du
je
jeu.
Pour te répondre pour chez nous
Bah nous c'est pareil mais parfois ça va dépendre de la chaîne de droit de l'éventuelle franchise de différentes choses. Et juste pour compléter sur ce qu'on disait sur les sur la rémunération proportionnelle sur les revenus de la BO, il y a quelques cas de discussions qu'on a eues qui n'ont pas abouti, mais donc sans trop mal parler sur des gens. T'as des différences de culture quand même aussi, notamment quand on parle et qu'on discute avec des Américains et encore pire, des Japonais sur cette question ensuite de stream et de revenus de royalties pour les artistes sur la BO. C'est Enfin, il y a eu des cas, notamment avec des Japonais, où on nous regardait avec vraiment les yeux écarquillés. Genre, mais comment ça, tu veux encore donner de l'argent au compositeur? Il a été payé pour faire le morceau pour... Non. Enfin, voilà.
Allez, squale. Ouais.
Et en fait, c'est parce que t'as des conceptions qui sont un peu différentes. Ouais. Enfin, voilà. Et bah, ça fait partie de notre boulot ensuite de d'évangéliser, d'expliquer.
L'éditeur, donc lui, au Japon, il se disait 100% des revenus de la BO.
Ça dépend lesquels. C'est un peu plus nuancé que ça.
Là, je parle
d'une
discussion
particulière. Mais là, la propriété intellectuelle française, le copyright anglo-saxon, ce sont des notions extrêmes. Je sais, je te ressors la même. Ce sont des notions extrêmement complexes, extrêmement nuancées, qui impliquent des chaînes de droit qui supposent une expertise. Je ne suis pas juriste de formation. C'est qu'à Patricia. Cœur sur toi. On est dans des vraiment à chaque fois du cas par cas et parfois ça ressemble et c'est du Canada Dry. On se dira c'est cette situation là. Ah ben non, oui. Pas exactement. Mmh. Donc vraiment, c'est compliqué de donner une réponse. Je sais que ça énerve beaucoup Salman, mais c'est très compliqué de donner une réponse complètement catégorique dans ce genre de mots.
C'est assez technique hein, parce que dans ces environnements, on doit jongler entre les usages du droit de la musique, du jeu vidéo, de la France du droit d'auteur et du copyright à l'américaine. Et en fait, tu dois mélanger tout ça et réussir à trouver des formules qui fonctionnent. Et comme tu dis, c'est au cas par cas parce que tu vas avoir un compositeur qui vient de tel pays, de telle juridiction, de tel horizon.
Et tu vois, au bout de chaîne, pendant ce temps-là, toi, tu streams un jeu et tu fais striker ta VOD par Twitch parce qu'il y a un morceau qui est protégé par le DMCA et t'as envie de crever.
C'est vrai.
Le streamer qui parle.
C'est vrai, mais.
Il y a des modes streamers des fois où ils virent les morceaux où ils savent.
Pour vraiment donner un exemple de la complexité du droit de la musique, c'est. J'écoute Gazo sur Spotify. Je rentre dans un fast-food, il y a une chaîne de clips avec le clip de Gazo. J'achète un billet de concert pour le prochain concert de Gazo. C'est le même artiste, c'est les mêmes chansons. Mmh. Eh bien, ce ne sont pas les mêmes droits qui s'appliquent. Oui, donc, c'est extrêmement compliqué et c'est ce qui fait peut-être que Tarafa et moi ayant démarré dans l'industrie de la musique enregistrée, nous retrouvons aujourd'hui là. C'est parce qu'il y a une telle demande, et il y avait un article hyper marrant, enfin c'est pas très drôle, mais c'est la manière dont c'était tourné dans Billboard, donc le magazine vraiment pro de la musique aux US, où en fait, ils disaient les éditeurs de jeux vidéo n'en peuvent plus de la complexité du droit de la musique.
Ouais.
Et c'est pas moi qui le cite, parce que moi je compose avec, jeu de mots compose, depuis un moment, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'y connaît rien,
oui,
c'est la nébuleuse...
C'est un merdier, c'est ce que je disais au départ.
C'est un merdier d'Aze.
Et c'est voué à continuer, puisqu'il va y avoir de plus en plus de visions artistiques sur la musique et que ça va rester un... Ouais. C'est les droits des artistes qui vont primer sur l'éditeur qui
en fait, c'est à un moment
tous les jours hein, donc peut-être qu'à un moment les choses vont se normaliser aussi et que tout le monde va un peu plus comprendre de quoi on parle et que ce sera...
Il y a quand même beaucoup de choses qui sont aussi des usages, donc à un moment... Quand TF1 veut mettre un titre de Rihanna en synchro d'un programme de flux, il y a un accord cadre, il est mis en place. Mmh. Voilà. Peut-être qu'un jour, est-ce que c'est le mois prochain ou est-ce que c'est pour ma prochaine décennie, il y aura effectivement des accords plus globaux. Encore une fois, quand les radios FM sont apparues au début des années 80, les gens étaient dupers parce que d'un coup, ben, quand les radios qui émettaient dans un camion, dans un appart, se sont mis à jouer de la musique, t'as les producteurs de disques qui ont débarqué et qui ont fait « Salut !» Donc, et ils n'avaient pas les moyens des RTL Europe 1 de l'époque.
Ouais.
Et ben, ils ont trouvé un accord.
Mmh. Tout comme les kebabs et les chichas.
C'est encore autre chose.
Tu payes des droits, ça c'est.
Bien sûr.
Ah bah oui, quand bien tu es dans un lieu public pour diffuser de la musique.
Oui, mais bon, ton kebab du coin, tu te dis.
Ah, et alors et alors.
En plus, il choisit même pas la prog, il met juste Trace TV.
Et alors il attire une certaine. C'est le travail des artistes.
Moi, j'ai jamais vu quelqu'un rentrer dans un kebab en se disant ouh, est-ce que ça serait pas du gazo?
Belle sélection.
je vais aller m'acheter un petit kebab.
Bah écoute, trouve-moi un kebab qui joue du métal.
Non mais. Il y a des barres audio.
Et on verra s'il n'y a pas une identité musicale propre. Ah, c'est kebab.
C'est vrai.
On a un business. Tu sais, il y a des bars audiophiles qui existent. On fait un kebab audiophile.
Mais
on
oui.
sert du kebab avec un beau système son et du bon.
Avec des dévialets.
Ça pourrait être stylé un peu. Propose ça au poulailler quoi, la prochaine fois que tu passes.
Bah, ça dépend. On peut avoir des enceintes de vialets chez Thomas.
de vialets, non. C'est, c'est pas, ça s'adresse moins aux musiciens.
Oui, c'est vrai, c'est un peu plus un truc de poseur, je suis d'accord. C'est vrai.
Du Vivaldi.
Par exemple.
On pourrait dans un kebab du Vivaldi.
Why not?
Bien sûr.
Je pense qu'on a commencé à faire un bon tour de la question. J'aimerais juste vous poser une dernière question, à part toi, Daz, si tu en as aussi une dernière tête.
C'est tout bon.
Mais je pense qu'on est pas mal. C'est sur ce fameux lien qui unit industrie conventionnelle et industrie du jeu vidéo. Quels sont pour vous les futurs liens encore à tisser? Qu'est-ce qu'on peut améliorer, entre guillemets? Et question annexe, vous pouvez peut-être commencer par ça. Est-ce qu'il y a, même au niveau administratif, économique, des liens qui peuvent exister, des majors, des labels qui sont investisseurs chez un développeur ou à l'inverse, un éditeur?
Il y a le groupe Sony qui t'embrasse.
Ils ont
Columbia,
Sony PlayStation et Sony Music, c'est le même groupe.
Bien sûr.
Mais ça n'a pas démarré hier, hein. On était tous au collège quand ça a eu.
Ils ont Columbia, ils ont Epic Street.
Et PlayStation.
Et PlayStation.
Ouais, et en plus, oui, ils produisent leur propre jeu PlayStation, en plus, enfin Sony.
En fait,
ouais.
Sony, c'est un groupe de Wi-Fi initialement.
Ah, oui, en plus.
Et vous savez s'il y a
des ponts,
si vraiment la division jeux vidéo de Sony et les labels musicaux, alors, etc., si vraiment ça bosse main dans la main,
c'est
ou
très
si
drôle
parce
que
très exploité.
C'est pas du tout le cas. Sony, ça reste un Zaibatsu, donc c'est une méga corp. Et souvent, la main gauche, c'est pas ce que fait la main droite. Hein.
Ils commencent à rationaliser, ils font leurs meilleurs efforts. C'est quand même de la même manière qu'à l'époque de Sony Pictures, qui existe toujours d'ailleurs, mais en tout cas, Columbia TriStar, ils essayaient de mettre les Will Smith, Men in Black, c'était signé chez Sony et c'était produit par Columbia TriStar. Mmh. Ils essayent, il y a eu, comment ça s'appelle? Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, le jeu, gros jeu PlayStation sorti l'année dernière, Ragnar. God of War Ragnarok, c'est Ouzier, artiste signé chez Sony, qui avait fait la BO. Donc ils essayent de plus en plus de créer des synergies.
Ouais.
Maintenant, à un moment, la créativité et l'artistique doit primer. Il ne faut pas s'enfermer, je pense. Enfin, je dis ça comme si j'étais avec eux dans les réunions, mais
tu ne travailles qu'avec des artistes de la maison.
Ils en parlent beaucoup, Tara. Enfin, c'est globalement une tendance.
C'est une tendance en communication. En tout cas, j'ai l'impression parce que c'est. Enfin, je vois que dans toutes les coms Sony récentes. Le lien, enfin Sony Music et France en particulier, le lien avec le jeu vidéo se fait de plus en plus. Là, quand il y a eu l'annonce un peu fracassante de la signature d'Orelsan il y a quelques mois, c'est un truc qui a vachement été mis en avant dans le communiqué de presse. Le lien entre le. Parce que voilà, de façon évidente avec l'univers d'Orelsan, des ponts avec le jeu vidéo, un peu truc transmédia, machin. Donc ils en parlent après dans les faits. Je sais pas, mais...
Et hormis cet exemple évident auquel je n'ai pas pensé, mais c'est la même boîte, entre guillemets.
C'est le même groupe, en fait. C'est le même groupe, collaboration.
Est-ce qu'il y a d'autres exemples ou d'actionnariat ou des choses comme ça, où vraiment les deux industries sont...
Écoute, on m'a pas appelé pour le moment, mais promis, je viendrai donner l'exclu dans Monte-Leçon.
Non, mais après, toutes les majors, Universal, c'est pareil d'ailleurs, Universal, c'est comme Sony Pictures, etc. Mmh. Donc, t'as toujours un bras qui fait de l'édition de jeux vidéo sur des licences plutôt du cinéma ou de choses comme ça. Donc, voilà. Mais ça a pas l'air d'être aussi imbriqué comme tu l'imagines.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire mieux alors? Qu'est-ce qu'il y a à développer encore?
Faut continuer. On continue ce qu'on fait, faut nous laisser un peu de temps. mais pour moi c'est cette porosité entre entre la musique grand public, enfin je dis grand public, mais la musique enregistrée telle qu'on la connaît et le monde du jeu vidéo qui va et qui doit s'accentuer et dans les deux directions et comme on disait que ce soit des gros artistes qui vont aller faire des BO ou de la découverte d'artistes par le jeu vidéo, tout ça, enfin ça c'est vraiment les trucs qui, je l'espère, vont se développer. En tout cas c'est ce qu'on veut développer au maximum et aussi que ça se fasse qu'on arrête aujourd'hui le problème pour moi ou la limite, c'est que très souvent c'est le côté jeu vidéo, c'est le marketing des éditeurs qui s'emparent du sujet des spotlight tracks et ça donne des résultats qui sont pas toujours terribles, je trouve.
Artistiquement, tu veux dire ?
Artistiquement, ça se voit que c'est de la commande.
C'est du pur marketing avant tout et voilà.
Voilà. Ouais. Mais parfois c'est bien, hein, mais et ça pour le coup on le voit beaucoup. Et d'ailleurs c'est parfois localisé. Il y avait Soso Maness qui a fait un morceau pour je sais plus MK, enfin pour le Mortal Kombat là qui est sorti MK1. Il y avait Dossé Dinos.
C'est
pour
qui Mortal Kombat ?
C'est Warner Bros maintenant, je pense.
Le jeu ?
Ouais, le jeu, ouais.
Ah, bah, tu vois, j'allais dire, c'est Sony, Sons of Mana, c'est Sony.
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a les licences, des licences cinéma qu'on retrouve dans Mortal Kombat, non ? J'ai une connerie.
Ah, si, t'as raison, je pense que c'est ça. Enfin, si ce que je dis se confirme, hein. Mais je crois que c'est, ouais, je crois que c'est, ça a été racheté par Warner Bros. Il y a quelques temps. Ouais, t'as eu Dino Sedosé pour la promo du dernier Call of. Et enfin, ça, c'est des trucs que ça remonte, hein. Il y avait, enfin, il y a 25 ans, je crois que c'est Soul River. Psychopathe, je sais pas si vous vous rappelez de ce groupe de rap là, qui avait fait un morceau incroyable. Bon, voilà, ça c'était du marketing assez cool, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça met du temps, enfin, ce genre de choses est très souvent prise par le marketing, mais enfin, moi, ce que je veux plus voir, c'est ça dans le jeu et de la créa dans le jeu, pas le truc qui arrive à la fin juste pour l'exploitation, juste pour la sortie, alors que le jeu est fini et que les développeurs ont même pas idée de ce qui est en train de se passer, quoi. Et ça, c'est vraiment ce qui, selon moi, pourrait être renforcé et pourrait être hyper intéressant d'un point de vue vraiment d'expérience et de créa et de voilà.
Et de ton côté, toi, Vlad, qu'est-ce qui peut être amélioré à la fois chez Ubisoft et toi-même personnellement, peut-être ton regard sur cette industrie et...
Moi, si je peux m'améliorer, oui, sur plein de choses encore. Mais je rejoins ce que dit Tarafa sur le fait d'avoir. Ce sont vraiment deux industries qui font connaissance. Et y a encore des choses sur lesquelles je pense qu'on en a tous sous le pied, aussi bien, comme dit Tarafa, mon rêve ultime ce serait vraiment de voir un artiste vraiment composer la BO d'un jeu vidéo et vraiment qu'il y ait une vraie collaboration comme ça puisse faire dans le cinéma. Donc ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire, et je pense que le premier éditeur de jeux vidéo qui va y arriver va donner la tendance. Mais il y a aussi de l'upside de l'autre côté, c'est-à-dire mieux comprendre les timings. Parfois, on vient nous voir en nous disant j'ai l'album de machin qui sort dans 2 mois, mais il faudrait que tu viennes avec l'album qui sort dans 2 ans. Parce que là, en 2 mois, on va pas pouvoir faire grand-chose. Ce genre de, entre guillemets, de réflexes qui se mettent en place. Et il y a aussi beaucoup d'upside chez les plateformes de streaming où on stigmatise parfois encore le gamer parce que on fait des playlists qui vont s'appeler Top Gaming Tracks, qui sont pas des playlists de titres de jeux vidéo, qui sont des playlists où on pense que ça peut plaire à quelqu'un qui écoute du jeu vidéo. Ah. Et ça reste des playlists de tubes qu'on appelle juste gaming parce que ce sont des titres destinés à une cible jeune. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'upside pour pouvoir justement mieux maîtriser cet écosystème et l'avoir le plus complet. Moi, ma plus grosse fierté, c'est pas forcément ce qui s'est passé d'un artiste pop à un jeu vidéo, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt quand je vois un MTV Special sur le tournage du clip de One Republic et Michel Tamer, et où on évoque Assassin's Creed dans un MTV Special, média le plus traditionnel. C'est-à-dire, le making de vidéos de MTV, il existe depuis des lustres. Donc il y a vraiment encore beaucoup de choses, beaucoup de correspondances, beaucoup d'échanges à avoir.
Formidable message.
Parfait. Ben oui, je crois qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup, Vladimir.
Il y a plein de trucs à faire. Merci. Mais il faut que vous continuez à faire vos affaires.
Merci à vous.
Tarafa Saloul aussi, merci beaucoup.
Merci, très cool.
Vous le savez, il y a quand même une tradition dans ce podcast, c'est terminé avec les recommandations. Chacun un petit morceau que vous avez envie de faire découvrir à nos auditeurs, nos spectateurs. Quelque chose de récent ou pas d'ailleurs, ce que vous voulez. On peut commencer si vous voulez avoir un petit temps de réflexion. Ou est-ce que vous avez déjà en tête le morceau que vous voulez faire découvrir ?
J'ai un artiste en tête et un album d'un artiste en tête.
Okay.
Là, en me lançant dans ma phrase, je me demande si c'était pas le même artiste que j'avais recommandé lors de mon premier passage.
C'est bien, c'est la preuve que tu te soutiens.
Moi, je me souviens pas du tout. C'était
okay,
quel...
non, mais je suis
Thriller
pas,
de Michael Jackson.
C'est un rappeur égyptien qui s'appelle Abi Youssef, qui a sorti un album il y a quelques semaines ou quelques mois.
Okay.
Et ce mec est incroyable, je le suis depuis des années, il est trop fort, et là il a sorti un album, je trouve que vraiment c'est hyper avant-gardiste et en même temps hyper classe. Il est aussi beatmaker, c'est lui qui fait toutes ses prods, il bosse sur le traitement de voix de tous ses morceaux, et voilà, il a sorti un album il y a quelques temps, je n'ai plus le nom de l'album en tête. Okay. Il a un morceau qui s'appelle Baby.
L'artiste s'appelle comment, rappelle-moi ?
Abi Youssef, A-B-Y-U. SIF.
Eh ben, on s'écoute ça, Abi Youssef, Baby.
My name is Baby. Kreuzung, also okay, ich hab's Bock, Detektiv, gibt es Bock, nicht was denn, Ballerbong, Seraph Dodge, having fun, unter Zero, Anna One, Anna Old, unter None, Anna Two, Anna From, Baby Kteel, Baby Feed, Baby Head, Baby See, Baby Shoot, Baby See, Baby Mami, Ulsch, Please, Baby Mami, Ulsch, Sorry, unter Cheats, I'm Lolli, Baby Comic, Madden, Folly, Kula, Haga, Bad, Lolli, Kula, Also zum, also zum, also okay, ich hab's Bock, Detektiv, gibt es Bock, mich bei Stem, Balladon, Seraph Dodge, having fun, hinter Zero, Alan One.
Ah, cool ça!
Ouais, et t'as un changement de beat à peu près au moment où t'as fait le fade.
Ah merde, je suis désolé. Ah, là, j'ai...
Et,
bah, il faut...
et où ça part en boom bap derrière, c'est vraiment. Ah,
c'est quoi, c'est quoi, attends, tu m'as vendu, vas-y, attends, ouais. Je remets un peu lecture.
Il baby feed, baby head, baby see, baby shoot, baby see, baby mabi ulch, please, baby mabi ulch, sorry, and the cheese, I lorry, baby omelette, mutton 40, cola haga, baby, 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 baby.
La upcoming directive.
Baby, 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 بلعب رجبي مع كل مكارتني في مكتبة الشوت بي اخصامي في بطني بتقولك لا بتقولي بتشغل تريكك بتقولك واطي
C'est bien bon ça.
Ouais, très cool.
Et l'album s'appelle Nemshi Menhenna, tout dans le genre. Je sais pas comment faut le prononcer exactement, mais 2024, janvier, c'est date de janvier.
Ah bah voilà, c'est récent. Bah, c'est une reco fraîche.
Eh bien, merci beaucoup Tarafa. Vladimir, Taroko, tu sais ?
Oui, je la sais. J'ai envie de... On a beaucoup parlé de musique de jeux vidéo. J'ai essayé d'étaler ma science du mieux que je pouvais. Là, je vais revenir à mes racines. Je suis un mec de pop et ouais. Je suis aussi un mec de chansons françaises. Okay. Et c'est une artiste extraordinaire qui est auteur, compositeur, productrice. C'est Santa. C'est surtout ma pote qui vient de sortir son album qui s'appelle Recommence-moi, qui a réussi à faire un disque de diamant avec un piano-voix. C'est suffisamment rare pour être nommé.
Elle était chez C'est à vous au Festival de Cannes.
Ouais, et c'est la chanteuse du groupe iPhone iPhone qui a fait premier album en français en solo, qui a eu un succès surprise énorme. Et je pense à elle très fort parce que bah, l'intégralité de l'album a été composée vraiment pas loin d'ici.
Atlas ? Non ?
Ouais, pas très loin d'ici.
Ok, très bien.
Et sa chanson s'appelle Popcorn Salé.
Eh bien, on écoute Popcorn Salé. Santa.
52 millions de streams.
Ça va.
Ça marche bien.
Ça va.
Jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens, je t'emmène.
Joli.
Même voilà, si en 45 secondes de piano en intro, anti-radio au possible. Elle a fait ça toute seule et elle a explosé et je suis super fier d'elle. Donc bisous Santa, je t'aime et allez streamer l'album Recommence-moi.
Très bien. T'as dit un truc sur les popcorns salés ?
C'est pas bon.
Oh non, tu rigoles.
Oh, je préfère c'est le souvenir.
Invite-la, tu fais un débat.
Popcorn salé et sauce piquante à la mexicaine.
Voilà, mais voilà tout de suite, obligé de faire des trucs dark comme ça.
Daz.
Yes, moi j'ai un morceau qui est c'est la bande son d'un jeu justement, je me suis dit genre,
C'est un jeu qui s'appelle Stellar Blade, qui est absolument turbo-con. Voilà, donc c'est un TPS avec une meuf en talon aiguille de 67 cm et combinaison moulax qui doit défoncer des aliens, donc c'est archi-con, tu vois.
Heureusement que j'ai parlé des femmes auteurs-compositeurs avant.
Mais justement, mais ça fait un très bon point, parce que le jeu a défrayé la chronique, parce que justement, les gamers étaient pas contents. Parce que dans les trailers initiaux, elle avait une combinaison couleur chair, donc on avait l'impression qu'elle était à poil. Ah. Et en fait, les gens se sont dit, c'est quand même un peu abusé, on va lui mettre une combinaison couleur verte, donc elle est plus à poil. Et les gens ont dit, non, pétition, remettez-le.
J'ai entendu parler de ce truc.
Alors, pour montrer à quel point les gamers sont quand même souvent des turbo-connards, mais le jeu est très rigolo parce que...
C'est bien, on termine cette émission sur le jeu vidéo en disant les gamers sont des turbo-connards.
Mais oui, mais je le dis parce que je suis dedans et que je suis conscient que mes concitoyens sont parfois très très cons.
Mais le une certaine branche de game.
Oui, bien sûr. Mais le jeu est quand même très jouissif. Oui. Donc c'est un truc qui s'inspire un peu des Dark Souls, Elden Ring et tout. Donc c'est des jeux compliqués, très durs, avec des combos à maîtriser. Voilà. Mais il y a une ambiance absolument incroyable, très jazzy, petit piano. Alors que t'es en train de massacrer des monstres avec des épées de 8 mètres, tu vois, et t'as une petite ambiance comme ça que je trouve très cool. Le morceau s'appelle The Song of the Wanderer. The Wanderer.
Très bien.
Et, La chanson du errant.
Voilà.
Et c'est de Shift Up Mother Vibes. Et Mother Vibes.
Voilà.
Derrière la BO, donc, tu disais de Stellar Blade.
Stellar Blade, un jeu coréen, bien sûr.
Magnifique, on s'écoute ça.
Imaginez l'ambiance, hein. Pendant que ce truc-là passe, vous êtes en train de défoncer des trucs dans une ville abandonnée.
Oui, j'étais en train de me dire, par rapport au trailer évoqué, ça me paraît beaucoup plus soft.
Ben ouais. En fait,
alors
c'est ça
que j'aurais plus vu siroter un petit
oui,
verre.
Oui, mais c'est ça qui est marrant, c'est que, en plus, la musique arrive par petites touches, et des fois, il y a juste une petite nappe de piano mignon, alors que t'es en train d'éclater des genres de bébés mutants et tout.
C'est bien ce genre de décalage.
Contraste, complètement.
Je sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez connu Marvel vs Capcom 2.
Bien sûr.
Pareil, qu'il y a une BO. Rétrospectivement, c'est assez différent, mais t'as aussi ce côté jazzy,
complètement,
un peu genre jazzy. Totalement what the fuck,
ça se met sur la gueule,
complètement jazzy justement, et puis Street 3-3 qui était complètement rap aussi,
tout à fait.
Et moi j'aime bien, en fait, c'est, tu vois, ce jeu-là, vraiment j'y allais en me disant c'est un jeu très con, et la musique m'a fait rester un peu dessus.
C'est plutôt raffiné.
C'est très cool. Et il y a vraiment des moments très piano bar, quoi. Et t'es là, tu fais, mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter, tu vois. Ça m'a fait un peu penser au feeling que j'ai eu quand j'ai écouté PNL, où de prime abord, tu dis, c'est nul à chier. Puis après, tu y restes et tu dis, finalement, c'est pas mal, il y a un truc.
Eh ben, en parlant de trucs nul à chier, mais finalement, c'est pas mal.
Ah
non, je suis un peu dur.
Tu parles de nous?
Non.
En invité?
Non. Non, c'est ma reco, où en fait, une fois n'est pas coutume, quoi, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, avec du Vakra, par exemple, j'ai mis du Vakra. De trucs où je dis, normalement, c'est pas trop fait pour moi, c'est pas trop dans mes goûts. Et en fait, c'est de la pop mainstream tellement bien réalisée que je me fais avoir et que je trouve ça vachement bien. Et que cette semaine, je l'ai écouté plusieurs fois, même le morceau, pour te dire. Et c'est un morceau de Eva qui vient de sortir un nouvel album.
Ah, big up Eva!
Anciennement Eva Queen, qui ne faisait pas de la musique du coup qui me parle, mais qui, pour son nouvel album, elle est extrêmement jeune encore. Elle a commencé, je crois, limite à 17 ans, un truc comme ça. Elle est déjà à son troisième ou quatrième album, alors qu'elle doit avoir une petite vingtaine. Bref, c'est très impressionnant. Mais je trouvais pas ça très bien.
Elle était un flic!
C'est quoi Netflix?
Son premier single.
Ah.
Reste avec tes folles, avec tes folles.
Je vois pas
énorme
du tout.
Énorme tube.
C'est vrai, mais je.
Fit l'artiste.
J'ai écouté quelques trucs d'avant, je fais. Oui, bon, bref. Et même l'album là, tout n'est pas réussi, mais il y a eu une vraie prise en main artistique de vouloir proposer quelque chose d'autres qui restent certes mainstream et calibrés, mais avec une certaine maîtrise. Elle s'est entourée d'Amso pour faire cet album,
voilà.
Qui produit l'ensemble.
Donc il y a des lyrics mi-porno, mi-mélancolique.
Non, là, ça, elle a gardé comme un peu de mainmise. Je pense que les lyrics, ça lui représente. Elle parle un peu de sa vie personnelle, etc. Du fait qu'elle ne se retrouvait plus dans celle qu'elle était et qu'elle avait envie de se retrouver avec cet album d'une certaine manière, tu vois.
Ok.
Et en vrai, je retiens surtout trois morceaux qui sont vraiment très bien. Le reste de l'album, c'est moins ma cam, mais il y a trois morceaux vraiment bien, franchement.
Si c'est un album de six morceaux, c'est plutôt pas mal.
Non, c'est pas le cas. Et notamment, il y a un tube, mais absolument imparable, Bottega, qui est d'une efficacité.
J'adore ce titre.
Et ben, on se l'écoute.
Demander. Lui je connais pas, j'ai mis la robe Dior. Elle est beau, Bottega Veneta, j'arrive en chef. Il m'appelle Eva Mendoza, j'arrive en chef. J'arrive en chef. Qui m'a demandé? Lui je connais pas, j'ai mis la robe Dior. Elle est beau, Bottega Veneta, j'arrive en chef. Il m'appelle Eva Mendoza, j'arrive en chef. J'arrive en chef. J'suis sa peuf, oh oui j'suis sa peufra. J'suis rentrée dans sa vie, main en l'air. C'est un casque comme à chaque fois. Tout le monde par terre, plus un bruit où on se pétard. J'ai dans une main mon téléphone. Dans l'autre, je tiens ta vie, je fais ce que je veux, toi tu t'abonnes. Le body flingue, baby toka. Moi je prends en tout, tu sais déjà. J'suis dans le vrai, suis-moi de près. J'ai eux pour la noche, je vais pas rentrer. C'est ma paix, ça j'ai les balles. Il a demandé à me voir à l'entrée. Qui m'a demandé? Lui je connais pas, j'ai mis la robe Dior. Elle est beau, Bottega Veneta, j'arrive en chef. Il m'appelle Eva Mendoza, j'arrive en chef.
Je te vois bouger de la tête, Daz, c'est pas genre.
Non, non, mais ça marche, hein. De toute façon, tu mets des mots espagnols, tu cites, tu name drop des marques de luxe, allez, on est dedans.
Mais c'est l'été qui arrive, mais c'est ça la BO de l'été.
Non, non, mais très cool, hein.
Non, très,
tu
très
bien qu'elle a bossé avec Damso.
Ah, de fou. Ouais. Ouais, de fou.
Et je conseille sur l'album, parce que j'étais un peu dur aussi pour la rigolade, mais en vrai, donc Bottega, Mayday et 9h du mat. Les trois morceaux sont vraiment bien. Et Mayday et 9h du mat sont un peu plus référencés en plus. Il y en a un qui est assez R&B, l'autre qui est un peu two-step, tu vois, avec une petite rythmique. Enfin, il y a une vraie référence musicale derrière assez cool qui parcourt pas assez tout l'album pour que j'aime vraiment l'artiste.
Non, mais c'est bien. Il y a quelques
trucs. Eh ben, moi, je l'aime.
Eh ben, tant voilà. Mieux.
Big up, Eva.
Bravo, Eva, je connaissais même pas. Donc,
Ah, bah, ça, Bottega, ça commence vraiment à prendre là.
Ah, bah, non, mais, ça, mais c'est justifié. Tu vois, là, il y a des fois où tu pourrais dire, ouais, franchement, un peu surcote. Là, franchement, ça mérite son succès.
Imparable.
Bravo. Bravo, madame.
Je vous remercie encore tous. À nouveau,
merci à vous.
Tarafa, merci. Daz, merci aussi, évidemment, merci. À la bouclette, Iris, Erwan et un petit peu Sam aussi aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Ouais, qui, merci. Qui merci à qui
Merci à Thomas, évidemment. On montre les mugs de loin. C'est horrible, cette horrible séquence.
Merci, yes. Thomas.
Merci à François aussi, évidemment, pour le montage.
Big up, François.
Merci à vous qui nous écoutez. Si vous êtes encore là, c'est que vous adorez cette émission. Alors, allez laisser un petit commentaire sur YouTube, une petite étoile sur les plateformes de streaming, etc. On se retrouve, évidemment, dans 15 jours. Ce sera le mercredi. Nouvelle invitée, nouveau sujet, Daz.
Mais évidemment.
Et ce sera bien.
Mais c'est toujours.
Allez, à dans 15 jours.
Ciao.